Vous écoutez
RMC.
Il est 6h59 et c'est l'heure du journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un coup de vent balaye la commune de Coussors dans le nord de la France. Pas de victimes, mais des dégâts et alerte rouge au cru dans 3 départements de l'ouest de la France. 6 personnes soupçonnées d'avoir agressé mortellement Quentin Derenck la semaine dernière à Lyon, activement recherchées ce matin. Et les radars ont désormais une nouvelle corde à leur arc, pouvoir traquer les automobilistes sans assurance. On va vous expliquer comment.
Un épisode météo d'une rare violence hier soir dans le Nord.
Ouais, de fortes rafales de vent ont balayé la commune de Coussors. Une possible tornade, fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Par contre, les dégâts sont importants à Amélie Lachin.
Alors que l'orage gronde hier soir, Christine, une habitante du village, est sous sa véranda.
La puissance des grêlons m'a interpellée. Elle me dit, hein, on a l'impression que ça va transpercer. Et mon fils m'a envoyé un message en disant, il y a eu comme une mini-tornade. Il me dit, écoute, c'est le carnage dans la rue, viens voir. Et quand je suis arrivée, effectivement, il y a des débris, des tuiles, des ardoises, des toitures arrachées, même des maisons où la toiture s'est soulevée.
Selon le premier bilan, au moins une dizaine de maisons sont touchées par cet épisode de vent violent, très localisé. Celle de Ben en fait partie.
Il était dégâts sur la toiture, les Velux qui ont explosé dans le terrain, c'est Bagdad, c'est parti en vrille en peu de temps.
À tel point que sur le moment, des habitants comme Daniel qui vit un peu plus loin ne se rendent compte de rien.
Bah nous on regardait la télé, j'ai ouvert mon volet derrière et puis je me dis notre arbre, on a un grand boulot, il était tombé. On l'a pas entendu en fait.
Sur place, les pompiers et la sécurité civile sont rapidement mobilisés. Contacté par RMC, le maire assure qu'aucun habitant n'a été blessé. Les opérations de déblaiement doivent reprendre ce matin.
Et l'ouest de la France est toujours touché par la montée des eaux.
Ouais, le Maine-et-Loire a rejoint la Gironde et le Lot-et-Garonne en alerte rouge. Justement, Martin Lange, vous êtes notre correspondant RMC dans l'ouest. Vous êtes en direct de la commune des Ponts-de-Cé au sud d'Angers, où vous constatez déjà les premières conséquences de ces crues. Une partie de la commune est inondée.
Oui Clément, d'ailleurs la préfecture a émis dès hier un ordre d'évacuation pour 900 personnes habitant entre la Loire et le Loué, de rivières largement sorties de leur lit. La Loire a été mesurée à plus de 5 mètres ce matin et elle devrait encore monter dans les heures à venir. Le maire des Ponts-de-Cé me confiait qu'il n'avait pas connu une telle crue depuis 30 ans. Alors pour l'instant la situation est sous contrôle, quelques routes sont coupées, l'eau effleure les habitations, mais il ne faudrait pas que les digues cèdent. D'ailleurs des veilleurs se succèdent pour s'assurer de l'étanchéité et faire le tour des habitations. Le plan de sauvegarde communal a été activé avec des premières évacuations par bateau et l'ouverture d'un centre d'hébergement dans un gymnase. Il est resté vide cette nuit, mais une dame avec qui je discutais à l'instant me disait qu'elle allait héberger des voisins dans un appartement du centre-ville d'Angers. La débrouille comme mot d'ordre ici.
Martin Lange, en direct des Ponts-de-Cé, près d'Angers. 11 autres départements de l'Ille-et-Vilaine au Tarn-et-Garonne sont placés en vigilance orange crue.
7h03 sur RMC. Toujours aucune interpellation après le passage à tabac de Quentin Derenck à Lyon.
Ouais, ce militant nationaliste de 23 ans a succombé à ses blessures samedi. Plusieurs agresseurs ont été identifiés selon BFM TV. Ils sont activement recherchés ce matin. Et Vincent Chevalier, le procureur de Lyon, a pris la parole hier après-midi. On en sait un peu plus sur les circonstances de sa mort.
Dans un premier temps, 7 femmes du collectif Némésis d'extrême droite sont prises à partie alors qu'elles dénoncent la venue de l'eurodéputé LFI Rima Hassan à une conférence organisée à Sciences Po. Chargé de les aider, un groupe de jeunes hommes est aussi violemment attaqué par une vingtaine d'individus masqués et cagoulés qui isolent 3 personnes, les jettent au sol et les frappent. Au moins 6 individus s'acharnent sur Quentin Derenck avant de prendre la fuite. Quand l'un de ses amis la retrouve, la victime est encore consciente, mais son état se dégrade très rapidement. Quentin Derenck s'écroule avant d'être pris en charge par les secours. Thierry Dran, procureur de la République de Lyon.
L'autopsie a permis de déterminer qu'il présentait un traumatisme crânio-encéphalique majeur. Ce traumatisme était de surcroît associé à une fracture temporale droite. Et les experts concluaient que ces lésions était au-delà de toute ressource thérapeutique et mortelle à brève échéance.
Une enquête est ouverte pour homicide volontaire, violence aggravée et association de malfaiteurs.
La chef des députés insoumis Mathilde Panot demande que le collectif identitaire Némésis soit tenu à l'écart de leurs meetings et manifestations au risque, je cite, que cela finisse mal.
Et d'ailleurs, le député LFI du Val-d'Oise, Paul Vanier, répondra à mes questions à 7h40 sur RMC. Pour l'heure, il est 7h04. La chasse aux conducteurs sans assurance est lancée.
La sécurité routière renforce ses contrôles en croisant les radars des excès de vitesse avec le fichier des véhicules assurés. Plus d'un demi-million de conducteurs circuleraient sans assurance. Mais pour l'instant, Amélie Courtet, seuls les grands excès de vitesse sont ciblés.
Oui, pour chaque personne flashée 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, c'est désormais systématique. Les forces de l'ordre vérifient que l'automobiliste dispose bien d'une assurance en consultant le fichier des véhicules assurés. Si ce n'est pas le cas, l'automobiliste reçoit sous plusieurs semaines un PV unique pour les deux infractions et une convocation au tribunal pour connaître sa sanction. 3 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende encourue pour l'excès de vitesse. Une amende du même montant pour le défaut d'assurance, auxquelles peuvent s'ajouter une suspension du permis ou une confiscation du véhicule. Ce nouveau contrôle n'est qu'une première étape, indique la sécurité routière, qui compte étendre le dispositif à tous les excès de vitesse.
7h05, à 4 jours du Salon de l'Agriculture, le climat se tend autour des négociations commerciales.
La Fédération du Commerce et de la Distribution boycotte les prochaines réunions après les propos de la ministre Annie Genevard tenue dans le Parisien. La ministre a accusé la grande distribution d'exercer un chantage mortifère sur les industriels de l'agroalimentaire. Tension donc maximale, Victor Johannin, à 2 semaines de la fin des négociations commerciales.
Oui, Leclerc, Carrefour et leurs homologues dénoncent des déclarations réductrices et caricaturales de la part de la ministre et vont donc bouder la réunion prévue ce matin pour faire le point sur les négociations commerciales. Annie Genevard a en effet eu des mots durs envers certaines enseignes qui procèdent, selon ses mots, à un chantage mortifère pour faire baisser le prix de leurs fournisseurs. Et à l'arrivée, ce sont les agriculteurs qui trinquent, ajoute-t-elle. Elle nous tape dessus pour se refaire une virginité avant le salon de l'agriculture, alors que nous ne sommes plus la cible des agriculteurs, s'émeut un distributeur. Avant le début des négociations, l'ensemble des acteurs de l'alimentaire avaient accepté de signer une charte de bonne conduite pour favoriser un climat apaisé. Sur ce point, l'objectif est loin d'être atteint.
Deux rendez-vous sport sur RMC aujourd'hui. Une chance de médaille au JO de Milan en biathlon sur le relais masculin à partir de 14h30. Et le barrage de la Ligue des Champions à 21h entre Monaco et le PSG. La disparition de l'acteur américain Robert Duvall à l'âge de 95 ans, connu pour son rôle dans Le Parrain et connu également pour cette réplique culte dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. I love the smell of napalm in the morning. J'adore l'odeur du napalm au petit matin. Voilà.
Eh bien, très bon petit matin à tous. C'était le journal de Clément Gouitz. Il est 7h07. On part au 32-16. Et c'est Achour qui est en direct avec nous de Fleury-Mérogis. Bonjour Achour.
Bonjour.
Comment ça va?
Bon, on fait aller doucement, tranquillement, là.
Doucement, tranquillement. Vous avez entendu cette information et vous êtes nombreux à réagir aussi ce matin à la question des 80, quand on se souvient quand même de cette histoire des 80 km/h. Aujourd'hui, plus de 50% des communes sont repassées et des départements sont repassés aux 90 km/h. Qu'est-ce que vous en pensez, Achour?
Alors, s'ils sont repassés aux 90 km/h, c'est qu'en fait, compte. Selon le but recherché pour diminuer le taux d'accident, c'est que ça n'a pas dû réussir, ça n'a pas dû donner raison aux 80 km/h. Maintenant, sur certains axes, j'ai envie de dire, maintenant, c'est vrai que c'est quand même un peu plus moins stressant, parce que quand on se retrouve sur une nationale, une départementale, une à simple voie, pas double voie, qu'on peut pas doubler, qu'on est derrière des camions qui sont déjà limités à 80-90 km/h, ça stresse, on veut les doubler. Heure de plus permet de retrouver un peu, si vous voulez, le confort de conduite sans avoir la tête dans le compteur et le stress. Et
ça vous paraît plus souple.
Voilà.
Ça vous donne maintenant un peu plus de souplesse.
Maintenant, j'espère qu'il y aura quand même des portions où il y a beaucoup de virages sinueux, voilà, comme dans certaines régions de la France, Cahors, tout ça. Moi, je pourrais rouler beaucoup du côté de Cahors, tout ça, c'est très, 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 très dangereux.
Très dangereux.
Je dirais 80, il ne faut pas remettre ça à 90, à certains endroits, c'est vrai.
Oui, vous estimez qu'il y a quand même des endroits où le 80 km/h était utile, voilà. Mathieu.
Je connais très bien les routes du Lot, et de toute façon, on n'atteint même pas les 60 dans certains virages.
Oui.
Donc,
Oui, mais parfois, vous avez quand même le panneau 90. Vous avez presque l'impression qu'il faut vous dise d'accélérer.
Il faut y aller, ouais.
C'est effectivement, Achour, en tout cas, vous le dites, il faut, dans ces cas-là, peut-être un peu de souplesse, c'est ça?
Voilà. Non, c'est une souplesse, mais je ne sais pas par quoi on entend souplesse, parce que les radars...
C'est-à-dire ne pas dire partout pareil, quoi. Il peut y avoir des endroits où, effectivement, le 80 km/h est plus indiqué.
Et puis, pas donner porte ouverte à tous ceux qui souhaiteraient aussi enlever tous les radars, parce que quand on écoute beaucoup de conducteurs, ils aimeraient ne pas avoir une limitation de vitesse et puis appuyer sur l'accélérateur. Et après, il y en a dit, c'est du racket. Non, c'est pas du racket, il suffit de respecter le code de la route, tout simplement.
Si on respecte le code de la route, de fait, on n'aura pas d'amende à payer. Merci beaucoup, merci Achour, ce matin avec nous en direct de l'Essonne. Il est 7h09 sur RMC. Et c'est Bérangère Bocquillon qui nous rejoint, chef du service société d'RMC. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Des étudiants de la Sorbonne exclus d'un groupe Instagram à cause de leur nom à consonance juive. On en avait parlé sur RMC et partout dans les médias. C'était en septembre dernier. Eh bien Bérangère, vous avez appris, et c'est une information RMC, que l'étudiante qui était à l'origine de ces exclusions n'avait finalement pas été sanctionnée. Vous nous expliquez tout dans un instant. RMC 7h10.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Aucune sanction pour l'étudiante accusée d'avoir exclu d'un groupe Instagram des étudiants juifs dont le nom était à consonance juive. L'affaire avait suscité une vague d'indignation mi-septembre. Une étudiante donc de la Sorbonne est accusée à ce moment-là d'avoir exclu d'un groupe de discussion Instagram plusieurs étudiants à cause de leur nom qui sonne juif. L'université Paris 1 avait alors saisi sa section disciplinaire et fait un signalement à la justice. Bérangère Bocquillon, vous êtes la chef du service société à RMC et vous nous révélez que la section disciplinaire de la Sorbonne n'a finalement pas sanctionner l'étudiante.
Aucune sanction, Apolline, contre cette étudiante de première année d'économie. Alors, je vous rappelle les faits. Le 15 septembre dernier, elle crée un groupe de discussion sur Instagram destiné aux étudiants de sa promotion. Elle l'intitule « Groupe Licence 1 Éco Sorbonne ». Et à peine créé, elle écrit « S'il y a d'autres sionistes dans ce groupe, en plus que ceux que j'ai déjà jetés, on ne veut pas de vous ici », avec un émoji drapeau palestinien. Elle a exclu plusieurs étudiants ayant des noms ou des prénoms à consonance juive.
Et malgré tout, elle n'a pas été sanctionnée.
Non, alors qu'il existe toute une gamme de sanctions qui va de l'avertissement jusqu'à l'exclusion. Elle est donc toujours en première année d'économie à la Sorbonne. Et cette décision, ça a été un choc pour la maman de l'une des jeunes filles qui a été exclue du groupe Instagram.
Ça nous a scotché en fait, parce qu'on ne peut pas, face aux éléments matériels qui existent en fait, considérer qu'il n'y a pas d'acte antisémite, c'est pas possible en fait, c'est pas audible, c'est pas possible. Je crois qu'il y a un recours qui a été fait, je ne sais pas ce qui va être décidé, mais ce qui se passe est très inquiétant.
Alors on entend son émotion, ces étudiants exclus, ils sont choqués.
Oui, c'est peu de le dire Apolline, j'avais hier l'avocate de deux des étudiants exclus du groupe Instagram. On parle de jeunes filles de 17 et 18 ans qui sortent du lycée et qui arrivent en première année de fac. Et je vous révèle une autre information RMC ce matin, ces deux étudiantes ont changé d'université suite à cette affaire, notamment la fille de cette maman que vous venez d'entendre.
Au départ, elle est retournée en cours. D'abord un isolement, une espèce de mise à l'écart, des regards qui étaient insistants. Et puis après, effectivement, l'apothéose, ça a été, je crois, le dernier cours qu'elle a suivi où des gens derrière elle disaient que les sionistes allaient devoir payer pour ce qui s'était passé. Et ça, quand on l'a appris, nous, on s'est dit qu'on devait mettre notre fille en sécurité, en fait, que c'était pas possible qu'elle aille en cours dans ces conditions. C'était impensable, en fait.
Apolline, vous vous souvenez certainement de ce sondage sur un groupe WhatsApp d'étudiants de la Sorbonne à la rentrée, pour ou contre les Juifs. Eh bien, c'était aussi un groupe de première année de licence d'économie à la Sorbonne. Ces étudiantes juives ont donc d'abord été confrontées à ce sondage sur WhatsApp, et puis elles ont ensuite été exclues de ce groupe Instagram. C'est beaucoup pour commencer une année universitaire.
Alors, comment expliquer cette décision donc de ne pas sanctionner cette étudiante ?
Alors, cette étudiante, elle affirme avoir exclu des personnes de ce groupe Instagram, non pas à cause de leur nom, mais parce qu'elles suivaient sur les réseaux sociaux des comptes militaires pro-israéliens, donc pour des raisons politiques. La section disciplinaire de Paris 1 parle, elle, d'exclusion maladroite. Et la présidente de la section disciplinaire m'explique que ce qui se passe sur les groupes de discussion privés ne relève pas de la responsabilité de l'université. Tous les avocats que j'ai appelés hier m'ont affirmé le contraire. Et puis, à l'université, vous savez, c'est une section disciplinaire qui prend les sanctions. Une section disciplinaire, c'est l'équivalent du conseil de discipline au lycée, sauf que ça fonctionne pas du tout de la même façon. Cette section est composée pour moitié d'étudiants et pour moitié d'enseignants. La direction de l'université n'a pas son mot à dire. Ça fonctionne bien pour les problèmes de triche, d'absence des élèves. Ça n'est pas adapté aux questions de racisme et d'antisémitisme.
D'ailleurs, Bérangère, vous nous l'apprenez aussi, l'université en tant que telle a fait appel de cette décision, c'est-à-dire la décision de sa propre section disciplinaire.
Oui, parce que la direction de l'université avait condamné très fermement les faits en septembre dernier. Il faut aussi se souvenir qu'à ce moment-là, le ministre de l'Enseignement supérieur déclare « L'université prendra dans les prochains jours les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables de ces actes écœurants ».
Le ministre qui est donc contredit par cette décision disciplinaire, est-ce que les choses vont changer, Bérangère ?
C'est bien possible, parce qu'une loi contre l'antisémitisme à l'université a été votée en juillet dernier et les décrets d'application viennent de passer. Désormais, l'université pourra saisir un conseil extra-académique qui sera présidé par un magistrat professionnel. Par ailleurs, demain, Apolline, l'affaire va passer devant le tribunal correctionnel de Paris. L'étudiante est accusée de harcèlement scolaire et de provocation à la haine raciale.
Merci Bérangère. Bérangère Bocquillon, chef du service Société à RMC. Il est 7h18 et c'est l'historien d'Apolline Matin qui vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur Chevalier, dans une interview, l'ancien président américain Barack Obama a laissé entendre que les extraterrestres existeraient.
Et oui, et il en a profité pour évoquer la zone 51. La zone 51, c'est l'endroit des États-Unis où on a longtemps cru qu'il y avait des extraterrestres.
Vous allez nous le raconter dans un instant. Il y a Arnaud Demange qui va venir aussi pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 55 secondes sur RMC, 7h18.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20 et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, Barack Obama fait parler de lui. Il a été interrogé dans un podcast il y a 2 jours. Et l'ancien président américain a affirmé que les extraterrestres étaient réels, il le dit, même s'il n'en avait jamais vu.
Oui, et il n'en fallait pas plus pour raffoler les réseaux sociaux. Du coup, Barack Obama a dû préciser sa pensée. Voilà ce qu'il a dit, je cite, « Statistiquement, l'univers est si vaste que les chances qu'il y ait de la vie ailleurs sont élevées. » Fin de citation. Il a ajouté que sous sa présidence, il n'y avait jamais eu d'extraterrestres aux États-Unis. Il en a aussi profité pour évoquer quelque chose de très important pour les Américains. C'est la zone 51, en précisant qu'aucun extraterrestre n'était retenu dans cette zone 51.
Mais qu'est-ce que c'est que cette zone 51 ?
Alors, la zone 51, c'est un des mythes complotistes les plus puissants des États-Unis. Alors, voilà l'histoire. Dans le désert du Nevada, à peu près à 190 km de Las Vegas, il y a une base militaire totalement bunkérisée. Son nom, c'est la zone 51. Elle a été construite dans les années 1950 par la CIA. En fait, l'armée voulait un endroit secret pour concevoir du matériel militaire. Personne ne devait rien savoir, pas même les citoyens américains. Et c'est justement l'absence d'information qui va créer la rumeur.
Pourquoi ce lieu va être associé aux extraterrestres ?
Alors, parce que dans la zone 51, l'armée américaine fabriquait et essayait des avions espions. Sauf que certains de ces vols d'essai vont être aperçus par des badauds. Du coup, les témoignages vont aller bon train. On dit qu'on a vu des flashs, des lumières aveuglantes. Et comme personne ne sait rien, ces jeux de lumière sont pris pour des ovnis. Donc on dit, eh bien, il y a des ovnis dans le désert du Nevada. De son côté, le gouvernement tient sa ligne. Aucun commentaire, secret défense oblige.
Quel genre de rumeurs circulaient ?
Franchement, un peu toutes et toutes plus farfelues que les unes que les autres, Apolline. Mais la plus délirante concerne le premier pas sur la Lune. En 1969, vous le savez, l'Américain Neil Armstrong est le premier à marcher sur la Lune. Des images qui seront retransmises en direct des télés du monde entier. Mais certains n'y croient pas. Et oui, pour eux, ces images ont justement été tournées dans la zone 51. Et oui, et la preuve, c'est que les cratères lunaires ressembleraient comme deux gouttes d'eau au désert du Nevada. Mais ne riez pas, Mathieu, puisque d'après un sondage IFOP en 2018, 16% des Français pensaient que les Américains n'avaient jamais marché sur la Lune.
Ah oui,
16% quand même. Hein.
Et puis il y a un témoignage.
Et oui, dans les années 1980, un homme du nom de Bob Lazar prétend avoir travaillé dans la zone 51 pour le gouvernement américain. Il raconte que dans la base, il y aurait des engins spatiaux capturés par l'armée à des extraterrestres. Alors du coup, évidemment, la rumeur explose. La culture populaire s'en empare. Hein. Pensez à la série X-Files. Finalement, voilà, on découvre que Bob Lazar était un imposteur et en 2013, le gouvernement américain reconnaît enfin l'existence d'une base militaire.
tout en précisant qu'on y fabriquait des avions et pas du tout des soucoupes volantes. Alors ça calme un peu le jeu, mais pas complètement, puisqu'en 2019, un événement a rassemblé 6000 personnes. Le but, c'était de marcher vers la zone 51 pour découvrir des traces extraterrestres. Bref, le mythe est bien vivant et les déclarations d'Obama ne suffiront sûrement pas à stopper les théories les plus folles.
Passionnant. Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Il est 7h23, Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour. Salut Arnaud. Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je reçois Marion Maréchal, la députée européenne et présidente d'Identité Liberté.
Oui, Marion Maréchal qui sort un livre, Si tu te sens Le Pen, aux éditions Fayard. C'est curieux comme titre. Elle, tu parles comme elle se sent Le Pen. Elle a viré Le Pen de son nom. Elle a juste gardé Maréchal. Un livre aux éditions Fayard, donc, qui appartient à Vincent Bolloré et qui publie pas mal de bouquins de la même famille. Chez Christine Kelly, on fait régulièrement la promotion. Et ce matin, c'est l'occasion sur CNews d'une petite revue littéraire. Je vous conseille plusieurs ouvrages, notamment La messe n'est pas dite d'Éric Zemmour, aux éditions Fayard, qui nous explique qu'il y a trop de musulmans et plus assez de catholiques. Autre chef-d'œuvre chez Fayard, Ce que veulent les Français, de Jordan Bardella, où il explique ce que veulent de Français moins de musulmans et plus de catholiques. Un autre brûlot nécessaire et visionnaire, Populicide, de Philippe Devilliers. Oui, ça c'est moi. C'est chez Fayard. Un récit palpitant qui explique comment les musulmans ont tué les catholiques. Waouh ! Et donc, Marion Maréchal, Si tu te sens Le Pen, avec un très beau passage qui nous explique qu'en France, il y a trop de musulmans. Julien Drey, vous vouliez réagir ? Ouais, mais c'est tous les mêmes livres, en fait. Oh, alors ça, c'est tellement petit de raisonner comme ça. Et oui, Julien, Astérix, c'est toujours la même histoire aussi. Mais quand une histoire est belle, on ne se lasse pas de la lire et la relire. D'ailleurs, Christine, chez Fayard, il y a aussi le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy, un très beau témoignage où on apprend que dans l'univers carcéral, il y a trop de musulmans. Pas assez, c'est selon. Bref, merci Fayard. Alors Marion Maréchal réagira à la mort du jeune Quentin. On a besoin d'une voix qui peut apaiser le débat. Bon, alors ce sera vraisemblablement pas elle, mais en tout cas, on a besoin d'une voix qui peut apaiser le débat. Marion Maréchal condamne la violence de l'extrême gauche et viendra sur votre plateau, Apolline, présenter un fabuleux numéro d'équilibriste. Et oui, car Madame de Malherbe, l'extrême gauche tue. Ils ont des milices de gens violents. Et nous, à l'extrême droite, nous au moins on a les cheveux propres. C'est compliqué quoi. À l'extrême droite, tu soulèves un caillou. Oui, t'as un crâne rasé en dessous. En fait, t'ouvres un bac à légumes de frigo dans une permanence à Nice. Oh, un milicien dans le placard à balai. Oh bah elle était là ma batte de baseball. Alors comment elle va s'en sortir? Voyons ce merveilleux numéro d'acrobate dans le plus grand cabaret du face à face à 8h30.
Arnaud Demange, merci. 7h25.
Détendez-vous sur RMC avec Idrac Business School, une école du réseau compétences et développement.
Arnaud Demange, qu'on retrouve évidemment tout à l'heure en direct à 8h20 et à tout moment en podcast. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et puis juste après le journal, pointé du doigt après la mort de Quentin Doranc à Lyon ce week-end. La France insoumise te défend ou tente de le faire. Le député LFI Paul Vanier sera mon invité donc à 7h40. Et puis à 7h50, notre voix de gauche, c'est mardi, Cécile Duflot. Elle veut que notre pays prenne en compte les intempéries et arrête de reconstruire à l'identique. Et puis il va y avoir la météo, bien sûr, une partie de la France qui est encore en vigilance crue. Il est 7h26, à tout de suite. Il est 7h28, la météo, Anthony, et c'est une partie de la France qui est encore en vigilance crue.
Exactement, 14 départements en vigilance crue aujourd'hui, dont 3 en rouge, hein, Gironde, Lot-et-Garonne et Maine-et-Loire, avec aussi une vigilance orange avalanche sur le nord des Alpes. Attention, prudence, le manteau neigeux est très instable. Et aujourd'hui, encore des averses, mais moins fréquentes qu'hier, sur un axe sud-ouest, massif central, frontière de l'Est. Averses neigeuses en montagne des 300-500 mètres ce matin sur les reliefs de l'Est. Attention aussi au fort risque d'avalanche dans les Vosges et sur les Pyrénées. Et puis ailleurs, c'est plus calme avec temporairement de belles éclaircies. Mais dès cet après-midi, retour d'une nouvelle perturbation pluvieuse par l'ouest. Les pluies qui seront soutenues sur la Bretagne et sur la Vendée. Donc évidemment, grande prudence. Les températures sont en baisse et on retrouve globalement les normales de saison aujourd'hui avec 4 à 12 degrés ce matin, 7 actuellement à Paris. Et en cours d'après-midi, vous aurez 7 à 12 degrés sur la moitié nord, 7 à Lille, 9 à Paris, 8 à Strasbourg, 8 à 15 dans le sud et jusqu'à 18 pour Nice et Bastia.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet, bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Débarque de la mairie pour ravitailler certains Girondins coupés du monde et des crues qui risquent de reprendre de plus belle après une légère accalmie hier. Pendant que la justice identifie les agresseurs présumés de Quentin Derenque, les candidats aux élections municipales craignent une flambée de violence politique. Et un duel 100% Ligue 1 pour commencer les barrages de Ligue des Champions. Monaco accueille un Paris Saint-Germain sous tension.
Le répit aura été de courte durée au bord de la Garonne.
Après la légère décrue d'hier, l'eau devrait remonter dans les prochaines heures et les prochains jours. Le Maine-et-Loire s'est ajouté hier à la Gironde et au Lot-et-Garonne en vigilance rouge. Deux départements qui enchaînent leur sixième jour défilé en alerte. Presque une semaine coupée du monde pour une dizaine de villages. Pierre Bourgès, vous êtes allé à Barry pour RMC où la moitié des habitants ont décidé de rester. Alors il faut les ravitailler en barque.
Et pour rejoindre les habitations, il faut naviguer sur 2 km. Pour cette tournée, Eric a 4 personnes à aller voir.
Bonjour, les vivres.
Eric attache le sac de course à une perche. Corinne le récupère depuis sa fenêtre au premier étage.
Waouh, super.
Vous voulez du pain?
Oui, du pain, s'il vous plaît. On a demandé du pain, du jambon, du fromage.
Pour elle, pas question d'évacuer.
On est bien ici. Pour le moment, on a des pièces où on a de l'électricité, du chauffage. Ça va comme ça.
Ici, il y a de l'eau à perte de vue. On ne distingue plus que le haut des arbres et le toit de certaines voitures.
Essayez de venir là. Vous pouvez.
Cet habitant a tout perdu. Il récupère son pack d'eau et prévient.
Si ça continue à monter, on va vraiment se barrer parce que là, on va tomber.
Vous appelez là-bas?
Ouais.
Okay.
Françoise, elle, a décidé de quitter sa maison où l'électricité a été coupée.
Je ne peux plus rester chez moi, donc voilà. À un moment donné, il faut évacuer, quoi.
C'est long. Oui, c'est long.
Avant de repartir à la hausse en fin de semaine, le niveau de l'eau baisse légèrement, ce qui pose problème. Il n'y aura bientôt plus assez de fonds pour rallier le village en barque.
Pierre Bourgès, le correspondant de RMC, dans le sud-ouest, dans le nord, à Coussors, c'est une possible tornade qui a ravagé la commune hier soir. Plusieurs toitures ont été arrachées, mais aucune victime n'est à déplorer. Des suspects identifiés, mais toujours aucune interpellation dans l'affaire Quentin Derenque. 5 jours après le lynchage mortel du militant nationaliste à Lyon, 6 personnes sont activement recherchées. Cette mort, beaucoup d'élus craignent qu'elle ne lance un engrenage de violence politique à moins d'un mois des élections municipales. Preuve en est, Romain Cluzel du service politique de RMC, les équipes de campagne ont pris leur disposition.
Et plusieurs candidats à Lyon nous expliquent avoir rappelé les consignes de prudence envers leurs militants depuis la mort de Quentin. La principale, ne jamais tracter, coller des affiches ou faire du porte-à-porte seul. La campagne va reprendre, mais dans une atmosphère très lourde, raconte un proche du candidat RN lyonnais. Du côté des Insoumis, des permanences d'élus ont été dégradées ce week-end dans plusieurs villes de France. Alors eux aussi transmettent les messages de vigilance, non seulement à Lyon, mais aussi à Lille, à Bordeaux et à Paris. Un candidat LFI se résout à solliciter un service d'ordre pour son prochain meeting, ce qu'il n'envisageait pas jusque-là. Mais pas question de ralentir le rythme de la campagne. Un cadre du mouvement l'assure. L'objectif de l'extrême droite est de nous effacer du débat. On ne va pas se laisser intimider.
Et ce drame survenu en marge d'une conférence, la France insoumise, perturbée par le collectif Némésis. Notez cette passe d'armes hier. Mathilde Panot, la patronne des députés insoumis, a réclamé que le groupe d'extrême droite soit tenu loin de ces meetings. Sinon, je cite, ça va mal finir. Némésis dénonce une menace de mort. On y reviendra à 7h40 avec notre invité. Ce sera Paul Vanier, député La France Insoumise du Val d'Oise. Coup de théâtre au procès en appel de la mort de Samuel Paty. Deux magistrates ont été écartés. À 10 jours du rendu de la décision sur le rôle de 4 hommes dans l'attentat terroriste, ces magistrates ne font plus partie de la cour d'assises à cause de questions jugées trop partiales, Pierre Bazin.
Oui, ce sont plusieurs avocats de la défense qui ont saisi la présidente de la cour durant cette journée d'audience à huis clos. Maître Berton fait partie des avocats qui ont estimé que les deux magistrates ne faisaient pas suffisamment preuve de neutralité.
La cour a estimé que ces deux magistrats, au travers des questions qu'elles avaient posées, que je ne peux pas évoquer puisque c'était à huis clos, ces questions-là revêtaient une sorte d'impartialité négligée, méprisée, mais aussi une manifestation d'opinion. Donc la cour a demandé à ces deux magistrats de quitter l'audience.
Une décision inédite pour une telle juridiction, mais derrière l'enjeu, c'était aussi d'assurer la bonne tenue du procès et la crédibilité de la décision finale.
Si la Cour avait estimé qu'elle devait coûte que coûte protéger ses magistrats, les débats ou l'issue du procès on aurait été entaché. Et donc, tant mieux que cette décision ait été prise. Et on espère, nous, que le procès aille jusqu'à son terme.
C'est donc sans magistrat supplémentaire, sans filet de secours en cas d'absence d'un juge et dans un contexte de tension que le procès reprend aujourd'hui. La décision est attendue la semaine prochaine.
Et en première instance, je vous le rappelle, les accusés avaient été condamnés de 13 à 16 ans de prison. On vous en parlait hier sur RMC. Les députés ont approuvé hier une proposition de loi pour autoriser les caméras boostées à l'IA dans les commerces. Caméras capables de détecter des gestes suspects, mais qui n'auront pas le droit d'utiliser la reconnaissance faciale. Le Sénat doit encore étudier le texte. Il est 7h35 sur RMC. Retour de la Ligue des Champions. Ce soir, c'est parti pour les barrages avec la Ligue 1, notre championnat de France à l'honneur sur RMC. Monaco accueille le Paris Saint-Germain. Arthur Perrault, côté parisien, on va voir la réaction au coup de gueule d'Ousmane Dembélé après la défaite contre Rennes.
Oui, pour le Ballon d'Or, c'est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. Interrogé hier en conférence de presse, l'entraîneur Luis Enrique refuse de revenir sur cet épisode.
Autour du PSG, il y a toujours beaucoup de bruit. Il faut l'accepter et voilà.
Pas de quoi déstabiliser le coach espagnol.
C'est un moment particulier parce qu'on commence la vraie Champions League. Quand tu dois jouer contre les mêmes adversaires à domicile et à l'extérieur, et on est motivé.
Dans le vestiaire, les mots d'Ousmane Dembélé n'ont pas fait plus de vagues. Le groupe parisien reste soudé et déterminé à briller en principauté. Le milieu de terrain, João Neves.
Je pense qu'Ousmane veut surtout renforcer ce que nous faisions la saison passée, jouer en équipe de manière collective. C'est l'un des plus grands atouts du PSG. Quand nous avons quelque chose à dire à certains joueurs, nous le disons en face. En ce moment, tout va bien, tout le monde est prêt pour le match et dans de bonnes dispositions.
À Ousmane Dembélé de porter tout le collectif parisien en Coupe d'Europe ce soir à Monaco, comme il le fait depuis le début d'année, en championnat avec 6 buts en 6 matchs.
À Monaco, PSG, ce sera à suivre sur RMC à partir de 21h. Et puis une mauvaise journée au JO d'hiver. Hier, aucune médaille. Déception, notamment en slalom homme pour les Français. Mais nouvelle chance aujourd'hui. Pourquoi pas en relais homme de biathlon. Ce sera en début d'après-midi.
Et puis les courses, le quintet, ce sera à Vincennes aujourd'hui.
Départ 13h55, la Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 14, Isofou Duchesne, ou son outsider, l'As Gentil Dies Shoot. Le 14 et l'As.
C'était le journal de Victor Pourchet, 7h37. Vous êtes nombreux à réagir sur ces 80 km/h qui sont finalement redevenus 90 km/h dans la moitié des départements français. Mathieu nous appelle du Morbihan. Bonjour Mathieu.
Bonjour Pauline.
Mathieu, 90 km/h ou 80 km/h, comment ça se passe chez vous et qu'est-ce que vous en pensez ?
Nous là c'est tout juste, ça vient de repasser là dans le Morbihan à 90 km/h sur pas mal d'axes. Après 80-90, moi j'ai jamais lâché les 90.
Ouais. Parce que même quand on était officiellement dans le 80.
Oui, voilà. Ouais. Oui, oui.
Bah,
oui.
Vous faites partie de la plupart des Français. Hein. On dit que en réalité, personne ne s'était vraiment mis aux 80 km/h.
Non, puis en plus, maintenant, là, avec la nouvelle loi, où quand on était à 90, on perdait 5 km/h, on n'était qu'à 85. On ne perdait pas de temps, on avait qu'une amende. Voilà, c'était pas trop. Je pense que la vitesse c'est pas l'axe principal pour faire diminuer les morts sur la route. Je pense que les petites vitesses 80-90, quoi. J'entends après les grosses vitesses bien sûr, mais moi je trouve qu'on donne pas assez de moyens aux forces de l'ordre, qu'on ait des forces de l'ordre présents sur la route, parce que peu importe n'importe quelle personne que vous allez avoir au téléphone aujourd'hui qui habite dans une petite ville de moins de 5000 habitants, tout le monde connaît un petit groupe de poche qui prend sa voiture, qui picole toute la journée et qui sont jamais pris par les gendarmes. On va dire le père de famille qui va boire un apéro de trop un jour, lui il va se faire avoir. Et là, on va l'entendre gueuler sur les émissions de télé.
Vous avez l'impression, Mathieu, et d'ailleurs, je précise que vous êtes chauffeur routier, donc souvent sur les routes. Vous avez l'impression que ce qui vraiment mériterait à vos yeux de susciter un certain nombre d'arrestations, qui sont l'alcoolisme, peut-être la drogue au volant, ces questions-là, ne sont pas suffisamment sanctionnées.
Non, je pense que c'est pas assez. C'est pas assez sanctionné. On voit pas assez de force de l'ordre faire des contrôles.
Je trouve c'est intéressant parce que vous êtes nombreux depuis ce matin à demander davantage de force de l'ordre, c'est-à-dire en réalité à demander davantage de contrôle. On a eu tout à l'heure Achour qui disait moi je voudrais qu'il y ait plus de contrôle, y compris de radar. Je ne fais pas partie de ceux qui demandent qu'il y en ait moins. Et il disait au fond si on respecte le code de la route, on n'aura pas d'amende et donc il faut être contrôlé. Merci beaucoup en tout cas Mathieu d'avoir réagi ce matin au 32-16. Il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Quentin Derenck a été jeté au sol, frappé par au moins 6 individus à Lyon. Une violence déchaînée, destinée à tuer, puisque l'enquête a été ouverte pour homicide. Précision hier du procureur de la République de Lyon. Bonjour Paul Vanier.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes député LFI du Val d'Oise. Votre mouvement est pointé du doigt pour sa proximité avec le groupe antifasciste La Jeune Garde. Vous répondrez à ces accusations dans un instant. Il est 7h40.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. LFI pointé du doigt après le lynchage de Quentin Derenck à Lyon. Le jeune étudiant nationaliste a été frappé par au moins 6 individus masqués, jetés au sol et frappés dans un but de tuer. Voilà l'expression du procureur de la République. Bonjour Paul Vanier.
Bonjour.
Vous êtes député LFI du Val d'Oise. Hier, à mon micro, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a accusé LFI, je cite, de propager un climat de violence et de partager une responsabilité morale qui a conduit à la mort de Quentin. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je lui dis d'abord que moi je pense à la famille de Quentin Derenck, je lui adresse toute ma compassion, que je condamne toutes les violences, toute forme de violence contre qui que ce soit, et je veux lui rappeler que la France Insoumise l'a toujours fait. Maintenant, de façon extrêmement claire, la France Insoumise n'a aucune responsabilité dans la mort de Quentin Derenck, ni comme formation politique, ni Rima Hassan, qui est arrivée à l'IEP de Lyon après les événements tragiques qui ont conduit à la mort de ce jeune homme, ni Raphaël Arnaud, qui était ce soir-là à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, en train de voter, ni le service d'ordre de la France Insoumise, qui n'a eu aucun contact avec ces groupuscules d'extrême droite qui ont gravité autour de cette conférence et dans les rues adjacentes à l'IEP de Lyon.
La France Insoumise a-t-elle un lien, en effet, avec la Jeune Garde ?
Un lien, disons, des relations que nous avions avec cette formation, dont il faut rappeler qu'elle a été dissoute il y a maintenant plusieurs mois.
Vous par, êtes opposé. Elle s'oppose à cette solution.
Oui, nous sommes. On pourra y revenir, mais elle a été dissoute. De fait, elle n'existe plus comme organisation, la Jeune Garde. Nous avions des liens, et nous avons des liens, nous ne les cachons pas, avec le mouvement antifasciste. Dès lors que le mouvement antifasciste se réclame de la non-violence, qu'il est dans une action d'autodéfense, nous avons des relations avec lui. Cela n'a rien à voir avec les images effroyables que chacun a vues, celles du tabassage d'un homme à terre. Tout ça n'a rien à voir avec la pratique de l'autodéfense. Et bien sûr, nous condamnons ces gestes, ces actes, et la justice maintenant devra identifier leurs responsables.
Raphaël Arnaud, que vous évoquez à l'instant, Raphaël Arnaud, député La France oui. Insoumise du Vaucluse, est donc lui-même le cofondateur de la Jeune Garde. Il a fondé la Jeune Garde en janvier 2018. Il en a ensuite été le porte-parole. Il a théorisé ce qu'il appelle l'autodéfense populaire. Il a même dit « On a dû des fois s'engager aussi physiquement. Ça a été mon cas et je ne m'en suis jamais caché. »
Alors d'abord dire que depuis qu'il est élu député, depuis 2024, Raphaël Arnaud n'a plus aucune responsabilité dans
en
la
effet,
Jeune Garde.
En effet, il a quitté la Jeune Garde au moment où il est devenu député parce qu'il ne pouvait pas effectivement faire les deux.
Depuis deux ans maintenant, et ensuite cette organisation a été dissoute. Pour le reste, cette citation de Raphaël Arnaud peut-être nous renvoie aux raisons de la création de la Jeune Garde et de beaucoup de groupes antifascistes à Lyon. Vous savez qu'à Lyon, depuis maintenant trop longtemps, depuis des années, nous avons beaucoup alerté, des groupes d'extrême droite extrêmement violents s'en prennent parfois à des passants, s'en prennent à des organisations démocratiques, des syndicats, des associations, des groupes politiques qui veulent tout simplement, dans l'espace public, faire connaître leurs idées, leurs opinions et aller au contact des citoyens. C'est dans ce contexte très particulier lyonnais, dans un contexte où il faut pointer la carence des autorités publiques, des forces de l'ordre
en
particulier, qui se doivent de garantir l'ordre public. Dans ce contexte très particulier, des groupes ont considéré qu'il fallait pouvoir défendre des événements publics pour permettre leur tenue. Non pas pour être dans la violence, non pas pour faire déferler la violence, mais pour pouvoir faire face à la violence de l'extrême droite qui visait à interdire l'espace public à des syndicats, à des associations, à des partis politiques démocratiques.
S'il est confirmer ce que plusieurs de nos confrères, je pense notamment ce matin à France Info, que parmi les 6 individus masqués qui ont tabassé à mort Quentin, il y aurait 5 membres ou anciens membres de la Jeune Garde, ce mouvement fondé par l'un de vos députés. Est-ce qu'à ce moment-là, vous considérez qu'il y a un lien ?
Absolument aucun. Je ne suis pas enquêteur, je vais attendre les conclusions de l'enquête.
Tout à fait, on va attendre les conclusions de l'enquête.
Mais y compris dans cette hypothèse, je le dis de façon extrêmement claire, la France Insoumise condamne fermement des actes comme ceux auxquels nous avons assisté, qui qui n'ont strictement rien à voir avec les pratiques du mouvement antifasciste qui, je le répète, et d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est théorisé par le mouvement antifasciste qu'il est dans l'autodéfense populaire.
C'est tout à fait
le tabassage d'un homme à terre, ça n'a rien à voir avec l'autodéfense, donc nous n'avons rien à voir avec ces gestes, et nous n'avons rien à voir organiquement avec les personnes qui ont agi ce jour-là dans cette rue.
Dans les éléments, effectivement, que vous exprimez ce matin et que certains aussi de vos confrères ont exprimé hier, il y a dire « non mais ça n'existe plus, ça a été dissous ». Sauf que vous vous êtes battu jusqu'à la semaine dernière.
Bien sûr.
Pour que ça ne soit pas.
Au nom de principe. Au nom de principe démocratique.
C'est-à-dire que Raphaël Arnoux a, dans l'hémicycle, posé des questions en disant qu'il s'opposait et qu'il faisait un recours contre la dissolution de la Jeune Garde. Il a même fait applaudir la Jeune Garde dans l'hémicycle en disant vive la Jeune Garde. Et vous l'avez tous applaudi.
On ne peut pas juger ces déclarations à l'aune des événements tragiques.
Tout à fait.
De Lyon, sans d'ailleurs aujourd'hui avoir la certitude que des membres ou d'anciens membres de la Jeune Garde, organisation dissoute, ont participé à cet événement. Quoi qu'il en soit, nous avons en effet défendu que cette organisation ne soit pas dissoute. Au nom de principes démocratiques, au nom du fait que nous considérons qu'il doit être possible pour des groupes qui n'ont pas de vocation violente, j'insiste, pour des groupes qui sont là pour protéger des événements, d'exister, de pouvoir apparaître, dès lors, encore une fois, qu'ils ne portent pas atteinte à l'ordre public et qu'ils ne font pas détailler la violence. Elle est très claire, la distance. Nous n'avons strictement aucune responsabilité dans ces actes et aucun rapport avec les individus, qui qu'ils soient, qui ont participé à ce tabassage. Aucun rapport.
Jacques-Élie Favreau, qui est donc l'assistant parlementaire de Raphaël Arnoux, qui est donc techniquement, non seulement proche, mais salarié, payé par Raphaël Arnoux, est au moment où on se parle suspendu de l'Assemblée nationale, d'abord parce que lui-même a dit qu'il voulait se mettre en retrait, mais depuis, il a été officiellement suspendu par les instances de l'Assemblée nationale. Il est accusé par des témoins d'avoir participé à ce lynchage, ce qu'il dément, mais il n'a pas dit « je n'y étais pas ». Vous l'a-t-il dit ? Avez-vous posé la question ?
Moi, je n'ai pas de contact.
J'imagine que vous lui en avez parlé les uns
des
autres.
Pas du tout. Moi, je ne lui ai pas parlé. Je ne le connais pas personnellement. J'ai lu les déclarations qu'il a fait connaître à travers son avocat où il nie avoir été en responsabilité.
Il dit je ne suis pas responsable de cette mort. Mais il ne dit pas qu'il n'y était pas.
Mais encore une fois, moi, je ne suis pas enquêteur. Je n'en sais strictement rien. Je vais attendre les conclusions de la justice et nous en tirerons toutes les conséquences. Mais à propos d'un collaborateur parlementaire. Mais d'abord, il s'est mis en retrait et ensuite, il est le salarié d'un député qui sera probablement amené à prendre des décisions, mais ça le regarde comme député employeur. Ce collaborateur n'a aucune relation avec la France insoumise. J'insiste sur ce point de façon extrêmement claire. Et puis si vous questionnez la responsabilité des organisations politiques relativement à des collaborateurs parlementaires, ce week-end, il y a un collaborateur du Rassemblement National, d'un député du Rassemblement National, qui, sur les réseaux sociaux, a menacé de mort plusieurs personnalités de la France insoumise, dont une députée en exercice, Sophia Chikirou. Alors je vous pose la question, Madame de Malherbe, est-ce que Madame Le Pen est responsable des menaces de mort?
Si j'avais Marine Le Pen face à moi, je lui poserais évidemment la question, et c'est une évidence. Paul Vanier, je suis quand même surprise que vous disiez nous n'avons aucun rapport avec cette question, dans la mesure où effectivement ce groupuscule a été ensuite le vivier dans lequel Jean-Luc Mélenchon non seulement a été aux universités d'été, il s'est rendu à l'université, au camp d'été de la Jeune Garde. C'est lui qui a ensuite donné l'investiture au créateur de la Jeune Garde. Il est difficile de dire qu'on n'a pas de lien.
Mais nous avons des liens avec le mouvement antifasciste, je vous le redis. Et je l'assume entièrement. Et nous avons eu des liens avec la Jeune Garde, quand c'était une organisation autorisée, qui pratiquait l'autodéfense, qui se revendiquait non-violente. Nous n'avons, de ce point de vue-là, rien à regretter. Maintenant, ce à quoi nous avons assisté à Lyon n'a, j'insiste, strictement rien à voir avec cela. Strictement rien à voir avec l'antifascisme. Il s'agit du tabassage d'un homme à terre. Et jamais la France insoumise ne s'associera à ce type de pratique. Nous les condamnons de toutes nos forces. Jean-Luc Mélenchon, depuis 20 ans, a eu de multiples reprises des déclarations publiques sur la question de la violence et de la violence en politique. C'est peut-être le dirigeant politique français qui a fait un travail d'éducation populaire de masse pour dire à tous ceux qui l'écoutent, en particulier aux plus jeunes, jamais ne recourez à la violence. Elle est un piège. Elle est d'ailleurs le piège vers lequel l'extrême droite
faire de plus amples recherches.
Elles sont extrêmement simples. Et puisqu'on s'intéresse à cette question, sans rien nier des responsabilités de ceux qui ont tapé Quentin Dérenque et qui l'ont manifestement tué, parler. Je veux dire que la violence politique aujourd'hui dans notre pays, elle vient de l'extrême droite. 12 personnes sont mortes sous les coups de groupuscules fascistes, racistes depuis 2022 dans notre pays. Et là encore, je pose la question de la responsabilité des autorités publiques, de Monsieur Nunez en particulier, car à Lyon, il était informé de la présence de cet organe identitaire Némésis. Il n'a pas fait intervenir les forces
pour
de police.
Pour vous, effectivement, c'était à eux.
Et
c'était à eux.
Et je le dis, ce drame aurait pu être évité si Monsieur Nunez avait pris ses responsabilités.
Vous voulez effectivement pointer la responsabilité des autorités. On verra aussi ce que dit l'enquête. Merci Paul Vanier d'avoir répondu à mes questions. Député LFI du Val d'Oise, 7h53, la voix de gauche est entrée dans ce studio. Cécile Duflo, bonjour Cécile.
Bonjour.
Les inondations qui touchent l'ouest de la France, pour vous, ça doit amener une prise de conscience. On ne doit pas reconstruire comme avant.
Non, on doit tout changer, y compris les assurances et par la loi, si nécessaire, il faut s'adapter.
Vous nous le dites dans un instant, 7h53.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, Cécile Duflo. Mais d'abord le bonus, Mathieu, avec un concert surprise de Kenji Girac.
Autant un concert qu'un cadeau de Saint-Valentin et une blague. C'était à Rennes, samedi dernier, donc la fête des amoureux. Et les vidéos cumulent les vues sur les réseaux. Vous allez le voir, le chanteur a répondu à l'appel d'un YouTuber pour une blague. On le voit passer devant une affiche qui annonce son concert pour 1 euro.
1 euro, mon concert. J'ai jamais vu ça.
Et en fait, il reprend une idée du britannique Ed Sheeran. Pour 1 euro, le youtubeur rameute du public dans la cave d'un petit bar. Et les gens jouent le jeu. En fait, aucun croit qu'il va voir Kenji Girac. Il croit qu'ils vont voir un sosie, un imitateur au mieux. Le public est amusé et puis le rideau s'ouvre. Et c'était bien Kenji assis, guitare sur les genoux. Les gens sont hilars. Allez voir les vidéos, c'est rigolo. Pour un mini budget d'un euro, c'est pas mal quand même. Autre dimension, ce bar, que les Bercy des 14 et 15 mars prochains.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Et c'est la voix de gauche parce qu'on est mardi, 7h55, Cécile Duflo. Bonjour Cécile, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, toujours placés en vigilance rouge crue aujourd'hui. Des villages littéralement noyés sous les eaux. Ce matin, vous vous interrogez, quand l'eau sera retirée, est-ce qu'il faudra reconstruire et comment ?
Alors, il faudra reconstruire différemment parce que là, maintenant, il faut être lucide. Dans quelques jours, l'eau va se retirer, on va nettoyer, on va évaluer les dégâts. Tous ces gens vont refaire des déclarations aux assurances, attendre les experts pour réparer à l'identique parce que c'est ça que qu'oblige la loi. L'article L121-1 du Code des assurances qui pose un principe fondamental, la réparation intégrale sans enrichissement. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose d'absurde dans cette logique quand notamment vous avez vécu 2 inondations en 4 ans.
Pour vous, il faut voir plus loin.
Exactement. Il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait pour que ces habitations, certaines d'entre elles qui vont être réinondées, c'est les conséquences du changement climatique, elles puissent mieux résister. Si vous remettez du placo, du doublage, dès qu'il y a de l'eau, c'est humide et ça s'effondre, ça ne tient pas. La pierre, c'est plus résistant. Donc, il faut se dire, comment on fait autrement pour faire en sorte que ces maisons soient elles-mêmes plus résilientes. Il faut qu'on s'adapte au changement climatique. On n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut continuer de lutter contre, mais il faut commencer à s'adapter, y compris les habitations.
Donc, reconstruire à l'identique, ce serait une erreur.
Oui, donc on sait, il va y avoir plus de pluie, il va y avoir des événements plus intenses. Ce ne sera plus des crues exceptionnelles, mais des crues régulières. Et c'est un quart du territoire français qui est concerné. C'est énorme. Et quand on continue d'implanter en zone inondable, quand on a des rez-de-chaussée qui sont habitables et qui sont équipés avec une chaudière, avec la cuisine, avec tout ce qui souffre beaucoup au moment de l'inondation, eh ben on s'en sort pas, on recommence à préparer la prochaine catastrophe.
Le coût des assurances, il a explosé ces dernières années déjà.
Ça, c'est une réalité, c'est que c'est financé par notamment ce qu'on appelle le régime catastrophe naturelle. Sauf qu'il est passé de 1 milliard, 1 milliard et demi des années 80 jusqu'à 2010, et maintenant on est à 2 milliards et on pense peut-être que ça sera 4 milliards. Et c'est tout le monde qui paye. Donc, à un moment, la logique de réparer, re-réparer, re-réparer, sans donner aux gens la possibilité d'adapter leur habitation, même si ça améliore la valeur de leurs biens, c'est absurde pour les assureurs, c'est absurde pour les assurés, c'est absurde pour l'ensemble de ceux qui sont assurés même ailleurs.
On fait quoi ?
Eh ben, on change. C'est-à-dire que on surélève les habitations, on change la manière dont elles sont aménagées, on transforme les rez-de-chaussée en espaces non habitables. Ça se fait dans un certain nombre d'endroits pour laisser l'eau circuler. On utilise des matériaux qui résistent à l'eau. Les maisons en pierre, on les fait redevenir en pierre. La pierre, ça sèche. Le placo, ça sèche pas. On déplace des équipements techniques. Enfin, on s'adapte. C'est-à-dire qu'on quand on répare la maison, on pense à qu'est-ce qui va se passer si elle est de nouveau inondée. Et puis aussi, on adapte les territoires. Donc, on le sait maintenant, il faut des zones d'expansion des crues. C'est la nature qui est la plus efficace pour absorber l'eau. On évite de localiser des nouvelles habitations dans des zones à risque. Et puis, on rachète les habitats dans les lieux les plus exposés. De toute façon, c'est un enjeu politique et c'est un enjeu collectif. Il faut maintenant mettre les pieds dans le plat au sens vraiment littéral du terme. On ne peut plus faire comme on faisait dans les années 80-90. Il faut qu'on pense tous ensemble à cette solution et ça passe peut-être par changer la loi et changer les règles des assureurs.
Merci Cécile. Cécile Duflot, la voix de gauche sur RMC. Il est 7h58. À tout de suite pour la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h, la météo crue encore.
Oui, dans 14 départements de l'Ouest en vigilance, dont 3 en rouge, Gironde, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire. Attention aussi au fort risque d'avalanche dans le nord des Alpes. Encore des averses aujourd'hui sur un axe sud-ouest, massif central, frontière de l'Est, avant déjà en cours d'après-midi l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse avec des pluies soutenues de la Bretagne à la Vendée, mais de belles éclaircies quand même au nord de la Seine et près de la Méditerranée, avec du vent, beaucoup de neige en montagne sur les reliefs de l'Est, et les températures retrouvent les normales de saison. 7 à 12 degrés au nord et 8 à 18 dans le sud.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous. 8h01.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 6 personnes recherchées ce matin après la mort du jeune nationaliste Quentin Derenque jeudi à Lyon. L'enquête a été requalifiée en meurtre. Vous entendrez dans ce journal le témoignage de son colocataire. Pas de sanction disciplinaire pour une étudiante de la Sorbonne. Information que vous révélez RMC dès hier soir. Elle avait été exclue des étudiants juifs d'un groupe de discussion en septembre dernier. Et nous irons dans le Maine-et-Loire dans ce journal, dans déjà les pieds dans l'eau ce matin, placé en vigilance rouge au cru avec le Lot-et-Garonne et la Gironde.
Après la mort de Quentin Derenque à Lyon, l'enquête requalifiée pour homicide volontaire et violence aggravée.
Et dans cette affaire, des suspects ont été identifiés, selon nos confrères de BFM TV, soupçonnés d'avoir participé jeudi dernier au lynchage mortel de ce jeune militant tabassé par 6 individus masqués et cagoulés en marge d'une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan. Précision du procureur de la République de Lyon, hier il est mort samedi des suites de ses blessures. Et ce matin, vous allez entendre les mots de son colocataire proche, lui aussi de la droite identitaire. Il a accepté de parler au micro RMC de Julie Brault.
Les yeux humides, Rémi se souvient, encore incrédule, du message lui annonçant la mort de son ami.
La mort n'a jamais enfreint le seuil de mon esprit. C'était même pas possible. C'est quelque chose qui n'arrive qu'aux autres, qui n'arrive surtout pas à celui qui dort dans la chambre à côté de chez moi et qui s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il est mort lynché à mort. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. On s'est acharné sur lui jusqu'à ce qu'il meure. Ça a été beaucoup de colère, oui, beaucoup de colère.
Quentin Derenque a été frappé à de nombreuses reprises par au moins 6 individus, selon le parquet de Lyon.
J'espère qu'ils seront arrêtés et enfermés pour très 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 longtemps.
Mais plus encore, Rémi attend aujourd'hui que les mouvements d'ultra-gauche soient démantelés, persuadés qu'ils étaient à la manœuvre.
Il faut en voir quels sont les auteurs, quels sont les partis qui retiennent cette violence en eux. Ça fait des décennies que le problème dure. Il faut mettre un coup de pied dedans et que ce soit une parenthèse honteuse qu'on refermera vite dans l'histoire de la Ve République. Voilà.
Une parenthèse qui risque pourtant, selon lui, de mener dans les prochains jours à une escalade de violence entre les groupes antifascistes et ceux de l'ultra-droite.
Et c'est dans une ambiance particulièrement tendue que la campagne municipale reprend à Lyon un temps suspendu. Elle reprend avec des consignes de prudence et de sécurité imposées par les candidats à leurs militants. S'il y a des sionistes, on ne veut pas de vous ici. Les mots d'une étudiante de la Sorbonne qui avait exclu des étudiants juifs d'un groupe Instagram en septembre dernier. L'affaire avait provoqué une vive émotion. Une enquête interne à l'université avait été ouverte. La section disciplinaire a tranché et décidé de ne pas sanctionner l'étudiante mise en cause. C'est une information que vous nous révélez, Bérangère Bocquillon. Vous êtes chef du service société RMC et vous nous expliquez ce matin les raisons de cette décision.
Alors d'abord, cette étudiante affirme avoir exclu des personnes de ce groupe Instagram de promotion de première année d'économie, non pas à cause de leur nom à consonance juive, mais parce qu'elles suivaient sur les réseaux sociaux des comptes militaires pro-israéliens, donc pour des raisons politiques. L'étudiante s'est aussi rapidement excusée quand l'affaire a commencé à faire du bruit. La section disciplinaire de Paris 1 parle d'exclusion maladroite du groupe Instagram. Et la présidente de la section m'explique que ce qui se passe sur les groupes de discussion privés ne relève pas de la responsabilité de l'université. Tous les avocats que j'ai appelés hier m'ont affirmé le contraire. car à l'université, c'est une section disciplinaire qui prend les sanctions. Une section disciplinaire, c'est l'équivalent du conseil de discipline au lycée, sauf que ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Cette section est composée pour moitié d'étudiants et pour moitié d'enseignants. La direction de l'université n'a pas son mot à dire. Ça fonctionne bien pour des problèmes de triche ou d'absence des élèves, mais ça n'est pas adapté aux questions de racisme ou d'antisémitisme. D'ailleurs, la Sorbonne a fait appel de la décision de sa propre section disciplinaire.
Et ça, c'est pour le volet disciplinaire, Bérangère, puisque demain, l'étudiante est appelée à comparaître devant le tribunal correctionnel pour harcèlement scolaire et provocation non publique à la haine raciale. Il est 8h05, vous écoutez RMC, la décrue sera lente et elle se poursuit aux abords de la Garonne. Elle sera de courte durée, puisque la pluie annoncée pour le reste de la semaine devrait accentuer la crue du fleuve qui a débordé depuis maintenant 6 jours. La Gironde, mais aussi le Lot-et-Garonne, reste en alerte maximale, rejoint hier par le Maine-et-Loire en vigilance rouge au cru. Des débordements majeurs sont attendus dans le département. On le retrouve sur place et en direct ce matin, notre correspondant dans l'Ouest, Martin Lange. Vous êtes au sud d'Angers, du côté des ponts de C, où la Loire est déjà sortie de son lit.
Oui, avec pas mal d'habitants les pieds dans l'eau ce matin. Je viens de croiser Maël et son mari, équipés de cuissardes, hein, vous savez, ces bottes qui montent jusqu'au torse. Ils tentaient de sortir leur chien tant bien que mal.
On prend la barque pour sortir, on met les chiens dans la barque. On dit que ça va encore monter. Alors oui, là, comme on n'a pas connu, là, on rentre un peu plus dans l'inconnu pour nous. Donc on va voir. Ce qu'il faut surtout pas, c'est les coupures d'électricité.
Là, on sera obligé d'évacuer.
Plus on s'enfonce sur l'île, plus c'est compliqué. Donc là, ils sont vraiment isolés. On a des personnes qui doivent évacuer ce matin. On va les héberger, ouais. En ville, au sec.
L'entraide entre voisins sur cette presqu'île entre la Loire et le Louet. Des veilleurs bénévoles passent régulièrement s'assurer que tout va bien. Ils sont aussi en charge de la surveillance des digues. L'une d'entre elles a d'ailleurs cédé entre les Ponts de Cé et Saint-Jean-de-la-Croix, obligeant la préfecture à émettre un avis d'évacuation. 900 personnes sont concernées. La majorité sont restées sur place chez elles. Mais la situation ne s'améliore pas puisque la Loire continue de monter plus de 5 mètres ce matin. La mairie a activé le plan de sauvegarde communal avec notamment l'ouverture d'un centre d'hébergement dans un gymnase, même si aucun sinistré n'y a dormi cette nuit.
Martin Lange, du côté du Maine-et-Loire ce matin, en direct pour RMC, de l'eau mais aussi du vent, avec cette possible tornade qui a traversé Coussort dans le nord hier soir. Pas de blessés, mais d'importants dégâts matériels. On espère du mouvement au tableau des médailles ce mardi, ce sera aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
Et la France est 9e ce matin au classement des nations. Le compteur bloqué à 15 médailles. On espère le voir évoluer aujourd'hui avec un record à la clé grâce à la discipline la plus prolifique depuis le début de ces Jeux. Le biathlon. Julien Richard, vous êtes en Terselva ce matin à quelques heures d'un relais masculin avec des bleus très ambitieux qui viseront l'or cet après-midi.
Et ils n'ont jamais été aussi bien armés. Les Bleus aligneront tout à l'heure 3 médaillés individuels sur ces Jeux. Quentin Fillon maillé en or, Eric Perrault en argent et le médaillé de bronze, Émilien Jacquelin, sans détour sur les ambitions.
On va courir pour gagner, rien d'autre. C'est la gagne ou l'hôpital pour l'équipe de France. On a un collectif qui est capable de viser la médaille d'or, s'en cache pas. La clé sera surtout dans l'état d'esprit, humilité, travail, mais détermination surtout.
Et jamais les Bleus n'ont remporté l'or olympique en relais. Pas même la légende, le retraité Martin Fourcade.
Pour moi, ils sont favoris pour ce titre olympique. Leur dire ça, c'est pas leur mettre la pression, c'est simplement prendre en compte ce qu'ils ont déjà fait, leur expérience, leur personnalité, leur qualité.
Les Français partagent le même hôtel que les champions olympiques en titre norvégien. Hier soir, ils ont lancé ce duel France-Norvège sur une console de jeu, un match de foot. Faut-il y voir un heureux présage remporté par les Bleus.
Julien Richard, on vous retrouvera au commentaire de ce relais 14h30 sur RMC. On suivra aussi le ski acrobatique ce soir de France en finale du Big Air. Et puis l'autre événement de la journée, c'est les barrages allés de Ligue des Champions. Ce soir, 21h, duel 100% Ligue 1 entre Monaco et le PSG qui aura à cœur de se rattraper après sa défaite à Rennes le week-end dernier. Et puis la journée sera peut-être décisive du côté de l'OM en pleine crise. Le propriétaire du club, Franck Macourt, est à Marseille aujourd'hui, une semaine après le départ de Roberto De Zerbi et deux jours après la démission de Mehdi Benatia. Cette nuit, des tags réclamant le départ du président de l'OM, Pablo Longoria, ont été découverts sur les murs du centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 8h09, on va parler économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous.
Emmanuel, on en sait plus sur les habitudes de consommation des ados.
Effectivement Apolline, si vous vous demandez, comme beaucoup de parents, combien vos ados dépensent chaque mois et surtout comment ils dépensent. Eh bien, cette enquête...
Combien ils dépensent, on sait en général, parce que c'est quand même souvent notre argent.
Pas
pardon, hein, mais
pas
une partie.
Pas complètement.
Encore une, au début de l'adolescence.
Pas complètement,
en
on y arrive. Pas complètement, on y arrive. Donc là, cette enquête du Teenage Lab, le Pixplay, apporte quelques éclairages. D'abord, alors, les ados, vous avez pas tort, ils sont, comme leurs parents, ils sont rattrapés d'abord par les contraintes de pouvoir d'achat. Ils ont dépensé en moyenne 92 euros par mois en 2025. C'est 7 euros de moins qu'en 2024. Mais quand même, Apolline, ils dépensent un peu plus que l'argent de poche que leur donnent leurs parents, entre 50 et 80 euros pour la majorité d'entre eux par mois, parce que il y a Apolline, les grands-parents.
Oui.
Les grands-parents, 20 à 50 euros pour un anniversaire, 50 à 100 euros à Noël, plus les petits billets bonus de temps en temps. Moi, j'avais de la chance, Apolline, quand j'étais plus jeune, j'avais un grand-père qui me donnait un petit billet et qui me disait surtout, tu dis rien à ta grand-mère. Et la grand-mère qui me donnait un petit billet et qui me disait surtout, tu dis rien à ton grand-père.
C'est comme ça qu'il est devenu économiste.
Et c'est comme ça que je suis devenu économiste, effectivement. Et puis, il y en a quand même 30 à 40% qui déclarent, surtout pour les 16-18 ans, faire un petit boulot rémunéré pour arrondir leur famille.
Les ados, ils dépensent différemment selon les régions.
Oui, alors les ados les plus dépensiers, ce sont les jeunes corses et les jeunes provençaux. 113 euros par mois pour les corses, alors qu'on est plus radin sur la façade atlantique. Moins de 86 euros en Bretagne, en Val-de-Loire et en Normandie. Alors, pourquoi? Ben d'abord, on retrouve le classement qu'on avait déjà cité sur combien les parents donnent d'argent de poche. Et c'était déjà les corses et les provençaux qui étaient les parents les plus généreux. Alors, je ne me lancerai pas dans un débat sociologique sur la pseudo-radinerie ou la pseudo-générosité des Corses et des Bretons. Juste un élément objectif, il faut reconnaître que c'est en Corse et dans le Sud que le coût de la vie est le plus élevé et qu'il est plus élevé que sur la façade atlantique.
C'est donc logique. Les garçons et les filles dépensent différemment.
Oui, alors globalement, les ados, ça mange beaucoup. Les garçons comme les filles, puisque en gros, il y a la moitié du budget qui est consacré à ça. Supermarché, beaucoup pour l'alimentation, pas toujours très saine, et 15% du budget pour les fast-food. Mais la moitié qu'il leur reste, effectivement, ils la dépensent différemment. Vêtements, produits de beauté, téléphonie pour les filles, et donc leur marque préférée, c'est Apple, McDo, Shein, Leclerc et Action. Les garçons, eux, dépensent plutôt, alors pas trop pour les vêtements, on est clair, mais par contre, pour l'informatique et les jeux vidéo. Et là, leur marque préférée, c'est Apple, McDo, PlayStation et Google. À noter que les filles sont plus demandeuses de rallonge que les garçons. Voilà, elles ont un peu plus de mal à tenir leur budget.
Emmanuel Le Chypre,
mais c'est vrai qu'on leur donne un peu moins aussi.
Voilà,
hein,
il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Arnaud Demange sera avec nous dans un instant. Et puis l'invité du face-à-face, notez-le, ce sera Marion Maréchal. Juste après, il y aura Nicolas Canteloup comme tous les matins et ses imitations. Face à Canteloup, tous les jours, 8h50 sur RMC. 8h12, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Arnaud Demange est là, salut Arnaud.
Bonjour et joyeux Mardi Gras. Personne n'est costumé, mais c'est Mardi Gras aujourd'hui. C'est Mardi Gras.
Les œufs et la farine.
Comme on l'appelle au Sénat, Mardi. D'ailleurs, le carnaval de Nice est ouvert. Vous avez vu ça? Et pour la première fois, une reine aussi grande que le roi était placée en ouverture de défilé. Un carnaval wokiste. Voilà, à Nice. Bravo, bravo. Très bien, les Niçois. Pourquoi pas la fête de la bière à Téhéran aussi? Et le salon de l'érotisme à Roubaix. Enfin, ceci dit, c'était un joli moment.
Maman, regarde! Il y a un nain déguisé en suppositoire!
Non, je suis Eric Ciotti, votre grand-mère. Votez pour moi.
Et la fête a duré jusqu'à 20h45. Et après, tout le monde est parti se coucher. Bah, c'est Nice, hein, c'est des vieilles personnes. Allez, L'actu. Emmanuel Macron entame une visite officielle en Inde, car New Delhi a approuvé l'achat de 114 Rafales pour un montant de 3 250 milliards. On va pouvoir rembourser une partie de la dette, engager des médecins, des profs, des infirmières, des magistrats. Alors on me dit dans l'oreillette que c'est 3 250 milliards de roupies.
Ah,
annulez tout, annulez les embauches. On est toujours fauchés. L'Inde, c'est le pays des vaches sacrées. Après, quand on croit en la réincarnation, c'est mieux que les vaches soient sacrées. Parce que sinon, tu crois manger un steak plein de protéines? Non, tu bouffes ta belle-mère réincarnée.
Oh,
c'est dégoûtant. C'est pour ça que c'est un goût aigre. Allez, partons en Inde. Scoop, on va en Inde retrouver Edwige Chevrillon et Emmanuel Le Chypre de BFM Business.
Envoyé spécial.
Banquière, bonjour. Et bienvenue en Inde.
Alors nous sommes en direct. Nous sommes en direct de New Delhi avec Emmanuel Macron, Monsieur le Président. Que pensez-vous des Indiens?
Écoutez, les Indiens, ils sont parfaits. Les Indiens, ils n'ont pas d'allocation chômage, pas de retraite, et ils savent faire des gosses, hein, les Indiens. On n'a pas besoin de leur envoyer des lettres. Hein. Alors que vous ne savez pas faire une levrette sans un formulaire. Copiez-les, bande de gros assistés. Allez, Madame de Malherbe, c'est pas 4 qu'il faut, hein, c'est 8
pour charbonner pour les retraites.
Et vous avez vendu des rafales aux Indiens. Quelle est la puissance militaire des Indiens? Écoutez, les Indiens ont une arme redoutable, Madame Chevrillon. Ils ont des soldats qui ont bu de l'eau du Gange, qui ont chopé la tourista et qui serrent la main aux ennemis. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Chip?
Je crois que je suis touché. J'ai serré la main au serveur quand j'ai mangé mon curry.
Mais lequel? Le curry d'agneau du petit déjeuner? Le curry de corbeau à 10h ou le curry de pneu de ce midi?
Tous. Mais vos bien.
Attention, monsieur le chypre, attention à mon costume en merde. Voilà. Quel beau voyage.
En France, près d'un salarié sur 3 aurait eu une relation intime au travail.
Oui, on est 5 autour de cette table.
Mais alors, c'est qui?
C'est qui? Moi, je vote Anthony. 5 autour de la table et 12 en régie. Dans la régie, c'est atroce. Hein. Je vous conseille de ne pas toucher au bouton des consoles. Hein. Moi, j'ose plus m'approcher des micros trop près ici. On ne sait pas où ça a traîné. Bon, en vrai, ça arrive tout le temps, ces histoires. Tiens, Emmanuel et Brigitte Macron, rien qu'eux, ils travaillaient dans le même lycée quand ils se sont rencontrés. Enfin, elle travaillait en tout cas. Et le nombre de fois où Jean-Marc Morandini est tombé amoureux au travail pendant les stages. Même dans le service public, ça arrive. Tiens, Laurent Delahousse. Moment gossip. Il est tombé amoureux de son retour caméra dans les écrans. Et c'est vrai qu'il entretient une relation torride avec lui-même. Bonsoir. Bienvenue sur France 2 pour l'actualité de ce soir. Et je te vois, Laurent. Je te vois dans les écrans. Que tu es beau avec ta mèche. Non, c'est toi qui es beau, Laurent. Si j'étais une femme, je serais comme un village de Gironde. Inondé de désir. Embrasse-moi moi-même. Ah oui. Ça, c'est le bruit d'une autopelle. 3 ans de conservatoire, Apolline. C'est pour toi, Molière. C'est pour toi.
L'affaire Epstein, non, pas que le corps diplomatique français.
Oui, un diplomate français, Fabrice Hédan, a échangé de nombreux mails avec Epstein à partir de 2010 et la correspondance a continué après. Donc, pendant qu'Alain Juppé était ministre des Affaires étrangères, ça ne m'étonne pas. Il le disait dans son livre. Et moi, j'aime les femmes, le corps des femmes, j'aime les soirées avec des femmes. Ça, j'en ai fait, hein, des boogie nights avec le prince Andrew et la femme du consulat de Moldavie et Patrick Sébastien qui l'a fessé avec une pelle à gâteau. On s'est régalé. Vous savez comment on appelait le ministère à l'époque?
Ah non.
Le Quai d'Orcelle. C'est marrant. Vous savez que je suis allé plusieurs fois acheter des bâches avec Christine Lagarde pour protéger la moquette, avoir une soirée que leleu avec l'ensemble du corps diplomatique brésilien, les valets de chambre de l'ambassade de Tunisie, et Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, qui filmait très sympa. Très sympa. J'extrapole. Il n'y a pas ça dans les fichiers Epstein. Pour l'instant, on est à l'abri de rien du tout.
On est à l'abri
Allez,
de rien du tout.
À demain.
Tilly Banalou, là, les filles, il est là. Et vous êtes bien sûr.
Détendez-vous sur RMC avec Idrac Business School, une école du réseau compétences et développement.
Dans un instant, ça se passe sur RMC et BFM TV. Mon invité dans le face-à-face, c'est Marion Maréchal, eurodéputée, présidente d'Identité Liberté. Après la mort de Quentin Derenc, la question évidemment de la violence en politique. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Marion Maréchal.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne, vous êtes présidente d'Identité Liberté. Vous publiez « Si tu te sens Le Pen », c'est aux éditions Fayard. Quentin est mort, homicide volontaire, voilà le chef d'accusation. L'enquête est ouverte, aucune interpellation au moment où l'on se parle. Est-ce que vous dites malgré tout
qu'il y a une forme de complicité de l'ultra-gauche aujourd'hui, comme vous l'avez dit dimanche?
Moi, je considère que Quentin n'a pas seulement été tué par la bande de lâches qui lui ont fracassé le crâne à coups de pied et de poing dans la rue alors qu'il était par terre. Je pense qu'il a aussi été tué indirectement par un système de complaisance et de complicité. Un système de complaisance et de complicité politique, d'abord. Je ne vais pas revenir sur les multiples déclarations de l'état-major et les filles Jean-Luc Mélenchon au premier chef qui ont soutenu la jeune garde. Les mouvements antifascistes se sont affichés à leur côté, ont parlé d'alliés et de liaisons même structurelles avec leur mouvement. On pourrait même d'ailleurs étendre jusqu'à, on en a moins parlé d'ailleurs, les écologistes. Je rappelle que Marine Tondelier elle-même avait signé une tribune pour soutenir la jeune garde.
Pour s'opposer à sa dissolution.
Qui revenait évidemment à un soutien bien sûr public. On pourrait parler aussi d'un système, disons le médiatique. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de médias, je pense à des médias d'extrême gauche comme Blast, comme Street Press ou comme Libération d'ailleurs, qui sont pour moi des journaux antifa, qui défendent ces mouvances et qui sont financés d'ailleurs par l'argent public.
Vous allez jusqu'à dire que des journaux comme Libération sont complices en quelque sorte de la mort de Quentin?
Quand je parle de complaisance et de complicité, excusez-moi, quand on voit la manière dont ces mouvements et la violence de ces mouvements qui n'est pas nouvelle est traitée par ces médias, financés par l'argent public quand même, oui, il y a une forme de complaisance. Allons plus loin d'ailleurs, même parlons de complaisance judiciaire. Je pourrais vous citer un certain nombre d'affaires quand même où l'impunité, le laxisme ont sévi à l'égard de ces groupes et de leur violence. Et même, disons-le, de complicité universitaire, quand on voit aujourd'hui qu'un certain nombre de directeurs d'établissements, d'universités ou d'IEP, ont laissé leur faculté devenir de véritables ZAD d'extrême gauche, laisser ces mouvances antifascistes faire la loi de la violence et de l'intimidation. Je pourrais vous parler de Lyon 2, je pourrais vous parler même de Paris Dauphine.
Le fait que Rima Hassan soit invitée, effectivement, par une association au sein de Sciences Po Lyon, est pour vous une erreur?
Absolument. D'ailleurs, c'est pas une conférence, parce qu'a priori, elle n'est pas conférencière. C'était un meeting politique. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à...
Ça fait beaucoup de responsables.
Ça fait beaucoup de responsables, oui, je vous l'accorde, puisque, de fait, on essaye de diagnostiquer aujourd'hui une montée de la violence d'extrême gauche, mais je suis désolée de vous dire que la violence d'extrême gauche, elle est continue, elle est permanente, mais elle sévit dans l'indifférence générale, malgré le fait qu'elle fait de très nombreuses victimes chaque année.
Vous dites la milice de Mélenchon et de LFI a tué.
Oui. La milice, oui, je considère que Jean-Luc Mélenchon est le chef de la milice. Faut-il que je rappelle aujourd'hui toutes les déclarations qu'il a eues, où il appelle d'ailleurs dans un meeting récent à Marseille à recourir à la violence. Il parle, je cite, de méthodes impactantes quand il dit que la jeune garde est un mouvement allié et lié, qu'il appelle ses propres mouvements à se rendre.
La jeune garde s'affirme dans une autodéfense. C'est la théorie conduit au recours à la violence.
Bien sûr. Puis-je rappeler parmi les moultes affaires qui ont frappé la jeune garde. Il y a un an de cela, Rima Hassan, encore elle d'ailleurs, fait une conférence sur, je cite, le génocide palestinien à Paris Dauphine, dans la foulée de cette conférence où d'ailleurs la jeune garde est utilisée comme service d'ordre informel par Rima Hassan.
Ce qui n'était pas le cas à Lyon.
Non, ce qu'elle dément. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas le cas et j'y reviendrai juste après si vous me le permettez, parce que je pense qu'il y a une responsabilité pénale possible de Rima Hassan dans cette affaire.
C'est-à-dire, attendez,
alors,
allez-y.
Non, mais je vais vous répondre, mais juste sur cette affaire pour rappeler quand même le type de violence. Donc, à la suite de cette conférence de Rima Hassan, 8 membres de la jeune garde ont agressé un jeune Français de confession juive de 15 ans dans le métro, vraisemblablement pour des raisons antisémites.
Dans l'entre-deux-tours des
législatives. Voilà le type de profil que nous avons. Et je considère aujourd'hui qu'en effet, on parle beaucoup de responsabilité morale, et à juste titre d'ailleurs, de LFI. On pourrait, me semble-t-il, l'enquête pourrait aller jusqu'à une responsabilité pénale. Parce que ce que révèle d'ailleurs, je vous parle de cette affaire, notamment vos confrères du Canard Enchaîné, quand ils parlent du fait que Rima Hassan, il y a un an de cela, a utilisé la jeune garde comme service d'ordre, ils disent que tout le monde sait, la jeune garde est évidemment utilisée comme un service d'ordre informel, et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a des donneurs d'ordre, ça veut dire qu'il y a des échanges entre la France insoumise, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie, on va dire, de pour donner l'information sur le lieu, sur l'heure, et donc moi j'en appelle aujourd'hui aux enquêteurs qu'ils tirent le fil pour savoir si vraiment il y a eu entre LFI, Rima Hassan et ses équipes, des consignes qui ont été passées à ces groupuscules pour être présents et donc entraîner potentiellement
donc,
la mort de
Quentin. Donc, vous accusez Rima Hassan, LFI, Jean-Luc Mélenchon d'être des donneurs d'ordre de la jeune garde.
Je considère qu'il y a aujourd'hui, mais eux-mêmes le disent, des liens structurels, des liens d'ailleurs aussi idéologiques, parce que ce sont des gens qui théorisent la violence comme un moyen de faire...
Jean-Luc Mélenchon parle de la jeune garde comme d'alliés.
En effet, il dit que ce sont
nos camarades et nos alliés.
Voilà. Donc il y a des liens structurels qui sont absolument évidents, il y a des liens idéologiques aussi, parce que ce sont des gens qui théorisent la violence comme un moyen de faire aboutir la révolution, de mettre à bas le système et donc d'imposer leur vision totalitaire. Et donc oui, je pose la question aujourd'hui aux enquêteurs, il faut se pencher sur les potentiels consignes qui ont pu être passées pour que ces gens soient présents comme ils le sont systématiquement à chaque manifestation ou intervention de LFI.
Cette
association, ce groupuscule a été dissous, même si il y a un recours devant le Conseil d'État. Est-ce que vous estimez que tous les groupuscules, pour le coup d'ultra-droite comme d'ultra-gauche, doivent être aujourd'hui dissous?
J'ai envie de vous dire, en fait, je refuse de rentrer dans cette rhétorique pour une raison simple. Pourquoi? C'est que je considère que s'il peut y avoir, bien sûr, des groupuscules d'extrême droite, en fait, statistiquement, la violence d'extrême droite est dérisoire par rapport à la violence d'extrême gauche.
Mais il y a des morts, vous le savez.
Non, mais elle est dérisoire. Je veux dire, ça n'existe pas statistiquement.
La seule question là, notamment les membres de LFI disent, oui, il y a eu 12 morts. Alors évidemment, tout
des chiffres qui sortent
depuis
de
combien on.
Enfin, il y a eu Clément.
Mais excusez-moi,
vous le savez,
des morts qui ne sortent de nulle part.
Vous le savez,
des chiffres
par un skinhead.
Vous ne pouvez pas dire que c'est dérisoire.
Non, mais moi, je regarde quand même la réalité en face. La réalité en face, c'est qu'il y a eu, ne serait-ce que cette année, des dizaines. Écoutez-moi bien, des dizaines de responsables de la cocarde de l'UNI, syndicat de droite, qui se sont fait casser la gueule dans les facultés. Donnez-moi un seul responsable de l'UNEF ou un seul syndicaliste de gauche qui se soit fait casser la gueule par des militants d'extrême droite.
Mais ça n'existe pas.
C'est dérisoire quand il y a eu des morts.
Je vous dis, c'est statistiquement dérisoire. La violence d'extrême droite dans notre pays n'existe pas. La seule violence qui est structurelle, massive, systématique.
Mais vous ne niez pas, Marion Maréchal, qu'il y a eu des morts.
Je ne sais même pas d'où sortent les chiffres de la France Insoumise qui ne sont jamais challengés. Clément Méric, absolument, il y a eu Clément Méric. Est-ce qu'il y a une comparaison possible avec Quentin? Excusez-moi, non.
Clément Méric est-il mort sous les coups d'un homme qui était membre de l'ultra-droite?
Il est mort par accident après avoir déclenché une bagarre. Non. Évidemment, bien sûr qu'il
n'est
pas
mort par accident.
Mais ce que je veux vous dire,
fait, la condamnation après avoir longtemps dit que c'était par accident, c'est-à-dire en
Il n'y a pas eu d'homicide volontaire. On parle d'homicide volontaire sur Quentin.
En effet, mais on ne peut pas dire que c'est un accident.
C'est pas un homicide volontaire.
Excusez-moi, ce n'est pas un homicide volontaire.
C'est un homicide involontaire. C'est donc il n'y avait pas une intention de donner la mort.
Ça n'est pas un accident.
Et en effet, tout le monde. Non mais excusez-moi, je suis pas en train de relativiser la mort de Clément Méric.
Ça n'enlève rien à la mort de Quentin que de dire s'il y a eu aussi des morts.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une manière de relativiser la gravité de la violence d'extrême gauche.
C'est que vous-même vous relativisez
par rapport aujourd'hui à ce que pourrait représenter la violence de l'extrême droite. Une fois de plus, je vais le dire, puisque si je devais y avoir le moindre doute, moi je combats la violence politique, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit. J'en ai moi-même été victime. J'ai une école à Lyon, vous savez, qui s'appelle l'ICEP, qui a été à de multiples reprises dégradée, attaquée, incendiée par de la mouvance antifa sans que jamais personne ne soit inquiété ou condamné. Je vais pas vous dire que je défends la violence politique, évidemment. Mais ce que je veux vous dire quand même, c'est que cette manière, on va dire, de dire la violence des extrêmes, de manière, on va dire, indifférenciée, sans considérer qu'il y a aujourd'hui une menace qui est plus aiguë, plus présente, plus structurelle, qui est celle de l'extrême gauche. Si, je suis désolée, c'est une manière de relativiser. Ça n'enlève rien au fait qu'il puisse y avoir des violences de l'autre côté, mais elles sont, oui,
statistiquement. Je voudrais d'abord préciser ce que je disais sur Clément Méric. Ce qui a entraîné la mort de Clément Méric, c'est le coup. Ça n'est pas ensuite la chute sur le poteau. C'est là-dessus que je voulais être très précise. Par ailleurs, vous dites plus. Mais au fond, vous êtes dans le plus, le moins. Mais
Excusez-moi, ça compte quand même.
Les groupuscules d'ultra-droite doivent-ils eux aussi être dissous?
Mais s'il y a des violences qui sont avérées, moi j'ai pas de débat avec ça. Ce que je suis en train de vous dire simplement, c'est que ne relativisons pas la gravité de la violence d'extrême gauche, qui est une violence quasi systématique. Je veux dire, dimanche, imaginez quand même, Apolline de Malherbe. Moi dimanche, donc j'étais à la manifestation d'hommage à Quentin.
Tout à fait.
Il y avait à mes côtés une députée qui s'appelle Annan Mansouri, députée UDR. Cette députée, avant d'être députée, elle était représentante de l'UNI. Elle était adhérente à LR. Elle était syndicaliste de droite. C'est une jeune femme, vous l'avez compris. Elle s'est fait casser la gueule par des antifas. Elle avait une vidéo, elle avait le visage en sang. Vous savez ce qu'ils ont eu, ces coupables, ces criminels? Eh bien, ils ont été condamnés à des travaux d'intérêt généraux. Voilà. Donc oui, je suis désolée de vous dire qu'il y a une complaisance. Et expliquer aujourd'hui que finalement la violence d'extrême gauche, elle est pas tellement plus importante que la violence d'ultra-droite, ça n'est pas vrai. Voilà, ça n'est pas revalativiser la violence des autres, ça veut simplement dire regarder la réalité.
Je vous pose la question également de la dissolution de ces groupes d'ultra-droite. Vous avez à vos côtés Philippe Vardon, qui est désormais le délégué général de votre parti. Il a été le cofondateur de ce qu'on appelait à l'époque le bloc identitaire, qui a été dissous en 2021.
Je vous le dis, pour le coup, dissous, selon moi, pour des raisons totalement infondées par Gérald Darmanin, parce qu'en l'occurrence, les jeunes identitaires n'ont jamais agressé des gens, n'ont jamais frappé des gens, n'ont jamais encore moins tué des gens. C'était des jeunes qui luttaient par de l'activisme visible, finalement, contre la politique d'immigration. Et c'est d'ailleurs en cela que je condamne parfois les parallèles,
Vous vous opposez à la dissolution du
moi, j'étais contre, évidemment, la dissolution des identitaires, parce que là, en l'occurrence, c'était...
Marine Le Pen appelle à la dissolution des groupuscules.
Non, mais elle ne parlait pas des
groupuscules d'extrême droite. Elle ne parlait pas des identitaires et d'extrême gauche.
Mais on met tout dans le même sac. Mais excusez-moi, là, le critère, le seul critère qui doit exister, c'est est-ce qu'il y a des appels et des passages à la violence? S'il y a appel et passage à la violence, il n'y a pas de débat. Voilà. Les identitaires, c'est encore un autre sujet. Ils ont été condamnés pour un délit d'opinion. C'est ça, la réalité. Parce qu'ils luttaient contre l'immigration, qu'ils appelaient de plus en plus de jeunes avec eux. Mais peut-on revenir quand même à l'essentiel?
Ils ont été dissous par le gouvernement en raison du discours de haine incitant à la discrimination ou à la violence envers des individus en raison de leur origine, de leur ethnie, de leur religion.
Contre l'immigration, donc d'accord. Voilà. Parce que c'est ça, en fait.
Et qu'ils avaient des caractéristiques de milice privée.
De quoi? Mais c'est totalement faux. Mais bon, ça,
c'est les mots du ministre.
Oui, oui, mais très bien. Mais Gérald Darmanin, je pense, sur cette affaire, a pas été totalement objectif et fondé. Maintenant, de quoi parle-t-on? Parce qu'une fois de plus, j'aimerais qu'on regarde la réalité.
Vous m'avez dit que je condamne la violence.
Oui,
je l'entends parfaitement. Je vous demande simplement de réagir à un groupe qui a été considéré par le ministère de l'Intérieur comme ayant une manière d'être qui est groupuscule, d'ultra droite, milice, incitant
Apolline,
à la violence.
Apolline de Malherbe. Moi, regardons le paysage politique. Parce que moi, je veux bien être aujourd'hui sur le banc des acculés d'une certaine manière, mais au sein du groupe LFI...
Non, mais ça m'intéresse de voir que Marine Le Pen appelle à la dissolution de tous ces groupes.
Mais elle n'a pas parlé des identitaires, en l'occurrence. Je considère que les identitaires ne rentrent pas, parce qu'on ne peut pas tout le mettre dans le même sac. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est où se trouve la violence politique aujourd'hui? Qui a aujourd'hui dans son groupe un député, en l'occurrence Raphaël Arnaud, qui a été condamné pour violence en réunion? Condamné, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé. Ils se sont mis assis sur un gamin de 18 ans pour le déshabiller et regarder s'il n'avait pas d'attitude.
Le groupe dont il est le cofondateur, la Jeune Garde, a été condamné, en effet,
mais pas seulement
pour
lui.
Avoir tabassé dans le métro un jeune homme juif.
Et il a été investi après sa condamnation. Est-ce qu'on peut parler de Sébastien Delogu, député LFI lui aussi, qui a lui aussi été condamné pour violence aggravée? Est-ce qu'on peut parler de Andy Kerbrat, qui lui, pour le coup, a été condamné parce qu'il a acheté de la drogue, il a acheté de la drogue à un mineur avec, son enveloppe parlementaire? Ça, aujourd'hui, c'est le paysage, le visage de LFI. Vous ne retrouverez pas d'équivalent dans le camp national. Donc, à un moment donné, regardons quand même la réalité en face, la tolérance de Jean-Luc Mélenchon pour la violence politique, qui en fait est une tolérance, disons-le, doctrinale, voilà.
Sur la question du rapport, à l'antisémitisme, le site d'Academia Christiania, qui est donc un mouvement traditionnaliste catholique dont Quentin était proche. J'ai regardé leur vidéo hier soir. Ils prônent un catholicisme intégral. D'abord, est-ce que vous connaissez ce groupe Academia Christiania et est-ce que vous en êtes proche?
Je vois qui il est. Je n'ai jamais participé à leurs événements. En revanche, je vais vous dire une chose. Je vois bien le petit narratif qui commence à monter, pas de vous d'ailleurs, Apolline de Malherbe, mais qui est en fait la technique de défense de l'extrême gauche qui consiste à vouloir transformer Quentin de victime en coupable.
Ça n'est nullement mon cas.
Je comprends bien, mais vous comprenez bien
simplement que la rigueur que l'on apporte aux uns, on l'apporte aux autres et que l'on soit vraiment face à ce qui est de la violence.
Quel est le fil que vous voulez tirer en expliquant, en essayant d'afficher les liaisons que pouvait avoir Quentin? Moi, je vous le dis, rien ne peut justifier que ce garçon de 23 ans, avec un gazier judiciaire vierge, rappelons-le quand même, ait pu se faire fracasser le crâne à coups de pied et de poing par terre. Donc moi, je refuse de rentrer dans qui fréquentait Quentin, qui il aimait, qui il aimait pas. C'est pas le sujet. C'était un garçon de 23 ans qui était là pour protéger des militantes de droite, qui d'ailleurs, je le rappelle, on en a peu parlé. Une d'entre elles a été étranglée, l'autre frappée.
Mise à terre et étranglée. Ce sont les mots du procureur.
Donc moi, je ne rentrerai pas dans cette espèce de narratif de l'extrême gauche qui consiste à dire mais est-ce qu'il l'aurait pas un peu mérité, Quentin, de se faire fracasser
la tête par terre? Vous trouvez qu'il y a cette logique-là?
Ah oui, je considère que quand on commence à essayer d'expliquer, ah oui, mais quand même, les fréquentations de Quentin et puis les idées de Quentin, finalement, c'était pas Jojo tout ça, et donc il aurait bien mérité de se faire fracasser la tête. Non, je suis désolée, moi, je refuse de rentrer là-dedans. Rien ne peut justifier qu'un jeune homme de 23 ans au casier judiciaire vierge, une fois de plus, qui était là de manière innocente, meurt dans ces conditions absolument atroces.
Les choses sont dites et claires, Marion Maréchal. Pour autant, je trouve intéressant aussi de se pencher sur ces groupuscules identitaires. Et encore une fois, j'ai regardé
c'est ça le sujet aujourd'hui.
Non, aujourd'hui,
c'est pas la Jeune Garde, c'est pas la mouvance Antifa, c'est pas LFI, c'est les mouvements identitaires.
Ah bah, bien sûr que si. J'ai d'ailleurs posé.
Donc il y a un jeune homme qui est mort, tué par les Antifa. Le sujet, c'est les mouvements identitaires là.
Bah, il y a plein de sujets aujourd'hui.
Ah oui, d'accord. Bah, écoutez,
non, pour vous, il y a pas plein de sujets.
Ah bah, pour moi, c'est le sujet principal, c'est pas les mouvements identitaires.
Pour vous, il y a pas une question aujourd'hui.
quand un jeune homme
de tout savoir,
quand un jeune homme de 23 ans,
je dois sélectionner ce à quoi j'ai
le droit de sélectionner le réel en fait, le réel c'est qu'un jeune homme de 23 ans a été tué
des groupes
par des antifas.
Pour vous, il y a des groupes qui appellent à la violence qui doivent évidemment être dissous. Et quand je vous pose la question de l'appartenance et même de la fondation du bloc identitaire par celui dont vous avez fait le secrétaire national,
vous me dites ça m'intéresse. Ce que je veux dire, non, c'est parce que je vous ai répondu d'ailleurs sur le mouvement identitaire sans aucune ambiguïté.
Vous avez dit qu'il y en avait certains qui devaient être
dissous, mais pas les autres. J'ai dit que la ligne pour moi était la violence. Je peux pas être plus clair que ça. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que oui,
aujourd'hui, j'ai le droit de vous interroger sur la question
sur les groupuscules d'extrême droite, qui ils sont, ce qu'ils font, mes liens avec eux, voilà. Alors que le sujet, c'est qu'un jeune homme de 23 ans a été tué par des antifas, qu'on est en train de se rendre compte qu'en fait, tout l'état-major de LFI est mouillé, toute l'extrême gauche française est mouillée. On découvre qu'à Lyon, excusez-moi,
le maire
j'ai reçu
écolo,
ce matin un député LFI et hier, j'ai demandé absolument à tout l'organigramme d'LFI de répondre à mes questions, ce qu'ils ont refusé de faire.
Je l'ai d'ailleurs remets pas en cause votre travail.
Donc, en fait, je trouve qu'il est important de poser toutes les questions.
Je remets pas
sur
en cause
tout
votre
et
travail.
À tout le monde.
Mais ce que je veux dire maintenant, c'est qu'il y a quand même une réalité qui est celle qu'aujourd'hui, la violence structurelle, elle vient de l'extrême gauche. Qu'une fois de plus, moi, j'arrive ce matin, je lis dans la presse que le maire écolo de Lyon, son adjoint à la sécurité, travaillait de manière structurelle, là encore, avec la jeune garde. Excusez-moi. C'est ça qui devrait nous affairer toute la matinée parce que la menace, elle est bien ici.
Pour vous, il y a une menace. Y compris des écolos.
Ah bah il y a une menace aujourd'hui dans le fait qu'il y a des liens structurels de l'ensemble de l'extrême gauche jusqu'aux écologistes avec cette mouvance antifa. Oui, de fait, c'est ce qu'on est en train de découvrir. Enfin moi je le découvre pas, excusez-moi. Mais en l'occurrence, ce qui est en train de découvrir l'opinion publique de manière massive. Voilà, et c'est pour ça que je dis que concentrons-nous me semble-t-il sur l'essentiel parce que je considère que c'est justement parce qu'il y a ce relativisme.
Mais est-ce que par exemple pour vous en est arrivé à un mot
être combattu
partout. J'en reviens, pardon, mais je voudrais aller au bout.
J'ai donc
regardé, parce que c'est important, et ça fait partie de notre travail, de regarder absolument tout. D'un côté, la jeune garde, de l'autre, effectivement, l'ensemble des groupuscules de jeunesse aujourd'hui. Sur le site d'Academia Christiania, il y a des tutos pour expliquer je voudrais vous interroger là-dessus.
Ok, mais quel rapport avec Quentin?
Aucun rapport avec
Quentin. Aucun rapport.
Simplement, je voudrais comprendre aujourd'hui si vous considérez, parce que lorsque l'on recherche aujourd'hui les liens avec l'antisémitisme, vous vous dites l'antisémitisme n'est aujourd'hui que d'un côté. Vous l'avez dit oui ou non?
Ah non, j'ai pas dit que l'antisémitisme n'était que d'un côté. Ah non, voilà. Absolument.
Vous avez dit la question de l'antisémitisme.
Vous savez, la bêtise humaine, la j'ai violence, été...
eh bien, alors, dire, coup, le, c'est pourquoi
la haine
cette
peut venir de partout. C'est pas le sujet.
Il parle de la question de qui aujourd'hui détient le pouvoir et ils mettent trois images. Academia Christiania, Patrick Drahi, Georges Soros et Jacques Attali dans l'image dans laquelle il tient la marionnette.
Oui, d'accord, mais je ne sais même pas de quoi vous me parlez, excusez-moi, mais vous me parlez d'un truc qui est absolument dérisoire. Il y a un enfant
vous redites le mot dérisoire.
Oui,
vous
non, mais excusez-moi, vous me
vous avez parlé quand même des morts qui ont été,
excusez-moi,
si c'était une statistique dérisoire.
Apolline de Malherbe, je suis désolée de vous dire,
non, mais en fait, je comprends pas.
En fait, j'arrive. Moi, je suis à côté dimanche des amis d'un jeune homme qui a été tué et j'arrive ce matin chez vous et en fait, je suis interrogée sur un poste d'une association que je connais de loin et
en fait,
même de
frappe,
fait,
ce qui m'allait
me faire commenter
très
le fait comme s'il y avait
clair.
Une ambiguïté de mon côté, en fait, excusez-moi. En fait, c'est pas moi qui suis sur le banc des accusés aujourd'hui. Hein.
Pas du tout.
Moi, j'ai un casier judiciaire
mais à partir du moment,
j'ai jamais appelé à la violence.
Marion Maréchal, voilà. Où vous dites que les morts qui sont tombés sous le coup
des
militants de l'ultra-droite, c'est dérisoire.
Non, madame, Apolline de Malherbe, moi j'ai dit qu'il y avait une réalité statistique. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Évidemment qu'un mort est un mort et que c'est dramatique. Voilà. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'essayer de faire une équivalence entre la menace que représenteraient des groupuscules d'ultra-droite dans notre pays et la violence d'extrême-gauche, je vous le dis, on peut ne pas être d'accord, Apolline de Malherbe. Moi, je considère que c'est un mensonge. Voilà.
Mais sur le mot dérisoire, je voulais que vous ayez l'occasion d'y revenir, parce que ça m'apparaît quand même
important. Et on n'aura pas le temps ce matin, mais puisqu'on en est à ce truc-là, j'aurais dû venir avec la liste de toutes les agressions de l'extrême-gauche cette année. Je vous garantis que vous auriez pas pu mettre en face l'équivalent en termes de violence d'extrême droite.
Voilà. On fera le travail. Merci Marion Maréchal d'avoir répondu à mes questions. Députée européenne, présidente d'Identité, Liberté et auteur de « Si tu te sens Le Pen ». Il est 8h40 et vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, Marion Maréchal était mon invité. Éric Zemmour tenait à lui dire un mot.
Ha ha!
Oh, Apolline, c'était chaud. Hein. Oh, je vous écoutais avec Marion. Mais elle a raison, Marion. Hein. Pardon, elle a du caractère. La violence d'extrême droite, c'est vrai que la violence d'extrême droite, hein, c'est une violence plus sympa, plus douce. Hein. C'est une violence croquant gourmand, voilà. Hein. Après, je la connais bien, là, Marion. On a une histoire ensemble. Hein. Tout allait bien, puis un beau jour, je suis rentré au siège du parti et puis personne. Voilà. Non, le plus dur dans une séparation, c'est pas la séparation en elle-même, c'est de savoir pour qui on vous quitte. Hein. Jordan. Bon, pardon, j'y reviens. Hein, mais franchement, qu'est-ce qu'il a plus que moi, hein? Je veux dire, à part la jeunesse, les électeurs, la popularité, les abdos et les militants.
Je vois pas. C'est sûr, c'est incompréhensible, monsieur Zemmour. Un mot sur la visite du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, en Algérie.
Ben voilà, voilà. On paye notre ministre d'Intérieur pour faire quoi? Du tourisme. Hein. Alors pardon, pour voir des Algériens, il n'y a pas besoin d'aller à Alger. Hein, il suffit d'aller à Argenteuil.
Alors c'est plutôt bon signe quand même de voir que les relations entre nos deux pays se réchauffent. La libération de Boualem Sansal a été un premier pas intéressant. Laurent Nunez veut persister peut-être dans cette voie.
Oui, ils ont libéré Boualem Sansal. Hein. Maintenant c'est à nous de remercier l'Algérie. Pardon, avec un geste fort, hein. Par exemple, je sais pas, moi, en leur envoyant 1 million d'Algériens chez eux, hein. On peut même aller jusqu'à 2 millions, hein, pour leur montrer à quel point on est sensible à leurs gestes.
Merci, Eric Zemmour. Tout de suite, on retrouve Marc-Olivier Fogiel pour les titres de l'actualité. Bonjour, Marco.
Bonjour, Apolline. Je connais ce sourire, Apolline. Quel beau sourire. Que tu souvenirs. Mais oui, j'étais patron de BFM, oui. Donc c'est moi qui, dès le départ, ai cru en Apolline. Ah. Hein. Apolline, elle lâche pas. Qu'elle va au bout d'une question, elle va au bout d'une question. Elle était formée comme ça. C'est Col Fogiel. Hein. Ben comme le grand-père de Marion qui croyait beaucoup en elle. D'ailleurs, Apolline est en train d'écrire un livre qui s'appelle Si tu te sens Fogiel.
En fait, c'est mon nom de famille.
Exactement. Oh, allez, c'est parti pour les titres. Affaire Epstein, les éditions Gallimard suspendent la publication d'un livre de Jack Lang intitulé Ma vie avec Mitterrand. L'éditeur lui suggère un titre plus vendeur, Ma vie avec Epstein. Et puis, Jeux Olympiques, la France a égalé son nombre record de médailles grâce au biathlète Philippe de Villiers. Souhaitait réagir. Écoutez, c'est drôle parce que quand je vois votre tête, vous faites la même bouche que moi. Je suis content de retrouver votre sourire, Apolline. Je vous ai vu un petit peu tendu tout à l'heure. Écoutez, en tout cas, moi, mon état d'esprit, c'est la consternation. On est foutus. Même dans le mouvement olympique, les wokistes LGBT ont pris le pouvoir. Pour représenter la France, on envoie qui? Des athlètes bi. Hein, vous venez de le dire. Non, c'est quoi la suite? Sur le podium, on va demander à remplacer la Marseillaise par du Dalida ou du Ben Farmer. C'est ça la suite?
Non, mais biathlète, ça veut pas dire bisexuel, c'est un pratiquant du biathlon.
Oui, bien sûr. C'est ça. Des hommes en collant fluo qui se courent après avec des bâtons, sortant toutes les 5 minutes le fusil de leur étui. Hein, vous me prenez pour qui? Non, mais allez raconter vos salades au service des sports des RMC, mais pas moi.
Merci Philippe de Villiers. Ce week-end, Christian Estrosi a dû démentir la rumeur selon laquelle il serait atteint de la maladie de Parkinson. Éric Ciotti, bonjour.
Oui, bonjour Madame de Malherbe.
Oui, vous êtes là.
Je tel que vous me voyez, vous me voyez là.
C'est vrai que vous êtes.
Je
vous êtes
suis
un peu petit,
abasourdi, mais... abasourdi par cette nouvelle.
Attendez, bah il n'a pas la maladie de Parkinson.
Oui, c'est ce que je vous dis. Je suis abasourdi d'apprendre que Christian Estrosi est en parfaite santé. Hein, moi qui étais prêt à lui rendre service, à lui tendre la main, je ne sais pas moi, en le remplaçant à la mairie de Nice pour qu'il puisse partir dans un service d'urgence en soins palliatifs. Ah. Voilà. Mais voilà, vous me le confirmez à l'instant, ce n'est pas la maladie de Parkinson. Donc apparemment, s'il tremble, c'est uniquement parce qu'il a peur de devoir m'affronter, à l'évidence. À moins que ce soit, à moins, je pose une hypothèse, à moins que ce soit dû à la sensation de manque après la cure de désintoxication qu'il a entamée pour se sortir de la cocaïne.
Non, mais arrêtez de raconter des rumeurs de ce type-là.
Vous le jouez bien, ça. Ça, vous êtes bien. Comme la fille en colère face à Marion, vous étiez bien aussi. Non, elle était bonne. Hein, très... Alors, je reprends mon sérieux, car c'est une émission sérieuse. Vous avez tout à fait raison. Je le combats politiquement. mais j'ai du respect pour l'homme, parce que j'ai des valeurs, Madame de Malherbe. Jamais je ne m'abaisserai, je suis déjà au plus bas, jamais je ne m'abaisserai à m'en prendre à une personne souffrant de déficience mentale comme Christian Estrosi.
Non,
c'est vrai, parce qu'on croit que c'est juste un motard nul, incompétent et malhonnête. Non, Christian Estrosi est aussi un homme qui souffre.
Non, mais je suis pas sûre qu'il apprécie ce genre de compassion de votre part.
Bon, écoutez, peu importe. De toute façon, avec son Alzheimer, dans deux minutes, il aura oublié.
Non, mais c'est pas possible.
Voilà, je souhaite, pour conclure, parce que le sujet est bien long, et je souhaite bon courage à Christian Estrosi pour son opération de la prostate, sa greffe de rein et sa transplantation cardiaque, et qu'il se rassure, jamais je ne mettrai en avant son état de santé fragile pour me faire élire maire de Nice. Non. Son bilan calamiteux me suffit.
Ah oui, vous n'êtes pas comme ça. Merci Eric Ciotti. Pour finir, Alain Marchal nous rejoint pour nous présenter le sommaire des Grandes Gueules. Quel est le programme, Alain ?
Bonjour Apolline. Aujourd'hui dans les Grandes Gueules, nous poserons la question, après les événements de Lyon, faut-il dissoudre les mouvements politiques les plus violents ? Nous en parlerons avec Jean-Pierre, qui connaît bien ces groupes de l'intérieur, puisqu'il a été militant au sein de l'association Les Jeunes avec Balladur. Nous reviendrons également sur les inondations dans le sud-ouest avec Annie, qui connaît bien le sujet, puisqu'en 1978, elle avait remporté au camping de Meillan-sur-Garonne le concours de t-shirts mouillés. Et puis, pour parler de la disparition de Robert Duvall, ce grand acteur américain, nous serons en duplex depuis les États-Unis à 10h20. Ne loupez pas ce moment, puisque nous serons en ligne avec Christian Colombier, qui vit là-bas et qui a eu la chance de tourner avec le grand Robert Duvall.
Ah oui.
Et pas sur n'importe quel film, sur Apocalypse Now, où il était figurant. Ah oui. Souvenez-vous de cette scène où on le voit très nettement de dos regarder l'hélicoptère de Robert Duvall s'envoler. Une scène malheureusement coupée au montage dont il viendra nous parler. Voilà, comme chaque matin, les meilleurs experts sont dans les GG.
Les meilleurs experts, bien sûr. Merci Nicolas, face à Cantelou. Dès demain, 8h50 sur RMC, à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG, quel est le programme le vrai à Olivier Truchot ?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les Grandes Gueules se préparent à débattre de l'actualité pendant 3 heures, avec autour de la table aujourd'hui l'avocate Sandrine Pégan, Abel Boyi, notre éducateur, et l'entrepreneur Emmanuel Devilliers. On va revenir bien sûr sur la mort du jeune Quentin, l'enquête qui progresse, l'étau qui se resserre sur la Jeune Garde, ce mouvement ultra-gauche proche d'LFI. Alors justement, quelles conséquences politiques pour les insoumis ? On en parlera, on en discutera dans les GG. À tout de suite.